Joss Whedon, Taylor Swift, Atomic Blonde, Chuck. Marine, on va jamais réussir à faire tout ça en moins d'une heure.
Yael, ne sois pas négative.
Bienvenue dans la cinquième édition de la semaine berlinoise. Nous sommes le dimanche 3 septembre. Après un petit break la semaine dernière, on se retrouve avec 16 jours de vie berlinoise à couvrir. On va peut-être être un tout petit peu moins exhaustif que d'habitude, enfin peut-être. On va parler des controverses qui ont secoué le net, du film qu'on a vu deux fois, des séries qu'on a eu le temps de regarder, et bien sûr, raconter notre vie, le but caché de ce podcast.
Enfin, caché, pas vraiment.
Oui, c'est vrai, on n'est pas très discrète là-dessus. On va d'ailleurs commencer par là, car un événement exceptionnel a eu l'anniversaire de Marine, le 20 août. Joyeux anniversaire, Marskaya.
Merci. Un peu en retard, là.
Ben non, mais si vous voulez envoyer des cadeaux, je pense que c'est toujours, il est toujours temps. Hein.
Ah, tout à fait. On va vous donner la note, la, comment on dit, le motto, le thème de la...
La thématique.
La thématique, merci.
La note.
La note.
Non, mais c'est the tone.
Non, la note, tu pensais que j'allais donner la... The bill. Alors, on va vous donner...
Ça nous a coûté tant. Merci de contribuer. Donc, alors, c'était le 20 août, donc ça fait effectivement deux semaines presque, voire exactement deux semaines. Oui, ça fait...
Même... Genre, vas-y, non, mais, vas-y, mets-moi le point, genre. Oui, alors je viens d'avoir 40 ans, plus deux semaines.
Mais non, mais c'est pour ça que je voulais dire. Bon, raconte-nous un peu ton birthday.
Alors, mon birthday était déjà super. Je voulais pas faire une grosse fête alors que tout le monde te dit ah 40 ans mais 40 ans tu vas faire une fête, enfin, je veux dire c'est bon, je m'arrête pas de vivre à 40 ans, donc si j'ai envie de faire un petit pique-nique parce que c'est plus sympa, il fait beau, il y a un parc juste à côté, qu'il y en a pas, qu'on vous a déjà parlé je crois. Enfin, c'est pas grave. Si, parce qu'on est allé boire un café une fois dans le Corner Park.
Oui, c'est ça, avec ta copine qui partait, je sais plus.
Ouais, dans le café, on s'en fout, bon. On s'en fout, elle est partie. On n'en parle plus. Hashtag pas awkward.
Hashtag elle écoute pas de podcast.
Non, du tout. Donc, en gros, donc je voulais faire un pique-nique et il faisait beau. Et à partir du moment
C'est là qu'on a découvert que, contrairement à ce qu'on croit, la réalité n'a plus aucune prise sur les gens et tout sujet est controversé, even. Même le fait qu'il fasse beau, apparemment, même ça, c'est un sujet.
Oui, parce qu'en fait, j'arrêtais pas de recevoir des messages en me disant... qu'est-ce qu'il disait, qu'il voulait, enfin, en gros, il pleut. Non, en fait, c'est pas ce que ça.
Le truc qui se passait, c'est que t'appelles les gens qui t'envoient des messages et qui t'appellent pour dire bon alors du coup on se retrouve chez toi à cause de la pluie et on était au milieu de la prairie. Enfin, c'est pas de la prairie qu'on dit.
La prairie de l'herbe.
Pelouse. Ouais, pelouse. C'est le mot pelouse. Au milieu de la pelouse, en plein soleil, avec tout le pique-nique autour et les gens. Bon, bah, vu qu'il pleut, on se retrouve chez toi. Et t'es là, mais.
Mais où?
Il ne pleut. Regardez à l'extérieur de chez vous. Et c'est là qu'on a appris que dans le nord de Berlin, il a plu.
Ouais, il a eu trois gouttes. Il y avait un gros nuage qui traînait à Pankow ou à Prenzlauberg. C'est pour ça que les bobos, c'est mieux de venir à Neukölln. C'est vachement plus cool. Il y a plus de soleil.
Mais c'est vrai que c'est... Non, mais en même temps, c'était un bon début de thématique pour cette émission où la question de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, ça dépend du point de vue.
Ça dépend du point de vue. Donc, à Berlin, c'est... Voilà.
Bon, moi, j'ai passé toute la journée à prendre des tonnes de photos. Pardon. Donc, on va peut-être les mettre sur Facebook, enfin, en tout cas celles que tu voudrais bien mettre sur Facebook, Marine, et vous pourrez voir à quel point il est cool, le parc à côté de la maison.
Donc plein de monde est venu, petit à petit, dans la journée, donc c'était très agréable, des gens très différents, donc super. Et puis, on avait aussi un peu de musique en fond, enfin, c'était super, franchement, la bouffe était très bonne. Mon amie Françoise a ramené une caponata.
Oh mon dieu.
C'est un. Enfin, on vous donnera. Enfin, faudrait que je lui demande sa recette.
J'espère qu'elle peut bien nous la donner.
Je suis pas sûre. Si, hein. C'est à moi, elle me la donnera.
Et du coup, tu la mettras sur internet.
Je verrai si je la mets sur internet.
Pour ceux qui ne savent pas.
Pour ceux qui nous la demandent parce qu'ils la veulent, on vous la donnera. Mais je la mettrai pas sur internet.
Donc, caponata, c'est avec des aubergines.
Des aubergines, enfin, il y a des capres, je sais pas. En tout cas, c'est super bon.
C'était. Mais. T'as envie de plonger dans la caponata, en fait. T'as envie de te.
Je sais ce que Troy. M'a parlé.
Donc je tiens à dire que la table fait des bruits bizarres. On a l'impression que c'est un paix, mais non, c'est juste un grincement de la table. J'ai pas le temps de tout couper au montage, donc voilà, je tiens juste à dire, for the record, c'est juste la table.
Donc par rapport à la caponata, Troy m'en a reparlé.
Donc, ah oui, donc ça l'a bien marqué.
Oui, pour que la bouffe. Fasse genre, enfin,
pénètre
le cerveau de Troy et genre, le crâne. Genre, ah oui, Françoise, oui, c'est celle qui a fait le super bon truc. J'ai dit oui, ah, c'était bon. Je fais, bon, donc voilà. À côté de ça, j'ai été gâtée comme jamais. Bon, d'abord, Yaël m'a offert 40 cadeaux. Entre parenthèses, un peu plus, parce que elle ne s'est pas comptée. Donc j'en ai eu plus, donc c'est très bien. J'étais genre, bah, il y a deux numéros. C'est quoi,
c'était quoi comme numéro 20.
Il y a deux numéros 20. Ah, mais quel numéro ? Et puis, surtout, le truc le plus drôle, c'était qu'on arrivait au numéro 12. Le numéro 12, je crois que je n'ai pas trouvé le numéro 12 qui était dans le numéro 16. Parce que donc, tout est le cadeau des numérotés, il fallait que je suive. Je trouve le prochain numéro pour ouvrir mon cadeau. Donc voilà, donc j'étais un peu bloquée au 12. J'étais genre, il n'y a pas de 12. Donc, 40 cadeaux. Donc, mais le thème principal quand même des cadeaux, c'était quand même la pop culture.
Comme donc, c'était étonnant.
Et donc, elle m'a offert plein de trucs pop. Mais d'autres personnes m'ont offert aussi des choses pop. Donc, j'ai eu deux petits bears. Celui qui vient de passer, qui a fait du bruit, c'est David Bowie, le vinyle de Hunky Dory. Ensuite, j'ai eu la Wonder Woman Lunchbox, par exemple. J'ai eu des custers, donc des sous-verts du monde de Marvel et de DC. Donc, des Wonder Woman, des...
Un Superman.
Et un Momine.
Et un Star Wars.
Momine, on vous en parlera une autre fois. J'ai eu un bouquin de Winnie the Pooh, j'ai eu les Star Trek Sticky Notes pour écrire mes petites notes. J'ai eu mon voisin Totoro avec, en version originale, mais avec les sous-titres anglais pour pouvoir le montrer à beaucoup de monde. Parce que le sous-titre allemand, c'est un peu chiant, quoi. Parce que le japonais, sous-titré allemand,
oui,
même moi, je suis genre... Donc, c'est mieux. Ensuite, j'ai eu de notre magnifique Carole, elle m'a offert Color Me Swoon. Swoon, où je dois colorier plein de stars, d'acteurs.
C'est un bouquin de coloriage avec que des beaux gosses à l'intérieur. Plus ou moins bien dessiné.
Un peu creepy par moment quand même. Fassbender, il a le bouton il est torse nu.
Oui, mais ça c'est drôle. Il y en a qui sont juste mal dessinés. Quoi. C'est Keanu Reeves qui se ressemble pas du tout. Enfin, en gros, c'est des beaux gosses stars américaines depuis les 30 dernières années. Parce qu'il y a Brad Pitt jeune, il y a plein de trucs. Et il y a des jeux, il y a des puzzles.
T'as envie de colorier juste Johnny Depp jeune. T'as pas envie de le colorier maintenant.
Mais je crois pas que c'est Johnny Depp jeune justement. C'est les autres qui sont. Enfin, bon, en tout cas,
c'est jeune.
Il y a tellement de. Enfin, voilà. Et en gros, Carole l'avait acheté, l'avait trouvé et l'avait. Elle avait montré à Marine qui avait explosé de rire en le lisant. Et du coup, Carole a dit, je crois que c'est pour Marine, en fait.
Et c'était super. Et à côté de ça, j'ai eu, bien sûr, des bandes dessinées, des comics que je ne connaissais pas. Trois différents. Donc, de Yael, bien sûr. Genre, j'oublie de préciser ça, mais c'est ça me semble tellement logique.
J'étais là, bon, je vais faire 40 cadeaux. Ça va être des tout petits cadeaux, des conneries, des bonbons, des machins. Et je suis allée... malencontreusement, je suis retournée au magasin de comics pour te récupérer la lunchbox et j'ai eu la mauvaise idée de dire au mec au fond, vous avez pas des comics à me conseiller?
Et voilà. Et donc il a conseillé donc Beach Planet, Pretty Deadly et Paper Girls. Et finalement donc j'ai lu Paper Girls depuis, que j'adore. J'ai acheté déjà le 2 et le 3. Qui vont être arrivés dans pas longtemps. J'ai vu que ça arrivait plus tard que prévu. Je pensais que ça allait arriver le 2, donc hier. Bah non, ça arrive le 5. Il faut que j'attende. Mais je vais pas vous en parler. C'est par le créateur de Saga.
Ryan Kevin.
Donc ça vous donne juste la
direction.
La direction, mais je vais pas en parler parce que ça.
Parce que je l'ai pas encore lu. Je l'ai
pas encore lu. Mais bon, c'est sur des filles.
C'est vachement étonnant.
Et il y a du papier dedans. Et voilà, et juste donc c'est absolument génial, c'est à lire quoi. Les deux autres, je les ai pas lus, donc on vous donnera bien sûr les informations.
C'est De Koenig, la nana qui a rebooté Captain Marvel, dont j'ai parlé dans le podcast sur le premier Comic Con Paris en 2015 où je l'avais rencontrée. Elle était là, c'est la meuf de Matt Fraction, le super créateur de Hawkeye. Dont apparemment d'ailleurs le mec du magazine de comics m'a dit que Sexual Criminal c'était vraiment génial de Matt Fraction. Ah bon, donc voilà, a priori il n'y a que du bon.
Et juste un aparté, parce que j'ai avoir fini là mes cadeaux, j'ai quand même eu beaucoup de lacrits qui sont du réglisse, parce que je suis quand même une grande accro du réglisse, et j'ai rencontré la propriétaire d'un magasin de réglisse. Yeah. Donc j'en ai eu plein. Et j'ai eu un super tableau et une super œuvre de notre amie Marion. Donc voilà, je voulais juste quand même citer, parce que Marion, elle risque peut-être d'écouter le podcast. Alors si je parle pas d'elle, elle va me faire de la gueule.
Non, mais surtout, ça lui fera plaisir si tu parles d'elle.
Surtout que j'adore ce qu'elle fait. J'adore.
On essaiera de mettre une photo aussi. Et donc le lakritz, donc le réglisse, il y a vraiment une culture du réglisse qui vient de Scandinavie, apparemment. C'est la culture du réglisse en Scandinavie qui est énorme. En tout cas, c'est clair que la façon
dont les gens parlent
de lakritz ici par rapport à comment on s'intéresse à la question du réglisse en France, c'est rien à voir. Il faudrait presque mettre une photo des assortiments de lakritz, mais tu les as tous mangés déjà, non ?
Non, mais j'ai fait une photo, j'ai fait des photos de tous mes cadeaux, par thème. Donc on vous mettra les photos, et il y a les photos, la photo bouffe, avec tous les lakritz, le vin, la confiture.
Et donc juste pour que vous sachiez, à partir de maintenant, nous on n'utilise pas le mot réglisse, on utilise le mot lakritz, parce qu'on le trouve beaucoup plus joli et beaucoup plus intéressant. Cette fois-ci, c'est ton téléphone qui a pété.
Bon, passons. Non, c'est... oui, c'est pas grave. C'est Bubble Witch.
Hein ?
C'est Bubble Witch qui m'envoie un disant « Vos vies sont remplies !»
Je dis à tout le monde que je joue à ce jeu.
Ouais.
Passons. Je voulais dire, c'était Marine qui disait son téléphone. Moi, je ne joue pas à ce jeu, je tiens à le préciser.
Et juste, donc, et j'ai fini finalement Saga volume 4 parce que Yael a acheté le 5 et le 6. Donc, je me suis dit, ah, enfin, je vais voir le. Bon, bien sûr, j'ai pas encore lu le 5 et le 6. Mais voilà, c'était juste.
Moi non plus. Je me les garde.
Oui, oui, on en parlera une autre fois.
Donc voilà, c'était une journée joyeuse, agréable, j'étais contente. En plus, notre amie Marie a fini d'envoyer son doctorat, sa thèse, ce jour-là. Donc elle est venue boire un verre avec nous en fin de journée.
Cool.
C'était hyper sympa, tout allait bien, tout était au mieux dans le meilleur des mondes. Et là, tout d'un coup, sur Twitter, il y a une récurrence inhabituelle du nom de Joss Whedon. Et je crois que c'est toi qui l'as vu en premier.
Non.
C'est moi ou c'est... Non, ce qui s'est passé, c'est... j'ai reçu un tweet où j'étais mentionnée dedans et ça disait un truc sur... oui, il lui a fait, je sais pas quoi. Enfin bon, en gros, j'ai compris qu'il y avait un truc sur Joss Whedon et qu'il y avait un blème avec son ex-femme et qu'il y avait un truc, les gens n'étaient pas contents. Bon. Alors, je vais faire un petit récap de la situation. Donc ça, c'était le dimanche 20 au soir. Entre-temps, je pense que j'en ai parlé 250 000 fois. J'ai écrit sur... toutes les plateformes de ce réseau social qui existe, et je suis en train d'écrire un espèce de manifeste qui est...
Je confirme.
qui est inspiré par ça. Donc j'ai plein de choses que je pourrais dire, mais je vais essayer de résumer. Donc en gros, l'ex-femme de Joss Whedon, sachant qu'ils sont séparés depuis 5 ans, mais le public large ne le sait que depuis quelques mois, qui s'appelle Kaiko, a écrit une lettre ouverte sur un site de pop culture qui s'appelle The Wrap. En gros, pour dire le féminisme de Joss Whedon est juste un truc hypocrite qu'il présente pour se donner une bonne image, mais en réalité, c'est un connard parce qu'il m'a trompée pendant qu'on était mariés. C'est à peu près aussi ça, le contenu du truc.
Ouais.
Donc moi, le dimanche soir, j'ai vu les trucs autour et je me suis dit, ok, j'ai tellement pas envie de passer la nuit à être triste, mal à l'aise, énervée et tout. Je ne refuse de lire ce truc-là pour l'instant. Je pose ça de côté. On verra demain. Et c'est ce que j'ai répondu. J'ai répondu, on verra demain. Et j'ai commencé à répondre, tant que j'ai pas lu, tant que j'ai pas truc, j'ai pas d'opinion. Le lendemain, je me dis, j'ai pas envie de regarder ça au réveil. Donc je me dis, bon, je vais attendre. Je passe 3 heures à essayer de faire autre chose et à imaginer dans ma tête tous les scénarios possibles de tout ce que ça peut vouloir dire et de tout ce qu'il y a dans le truc et de pourquoi c'est. Parce qu'à ce stade-là, je savais juste, elle dit que c'est un hypocrite et il l'a trompée. Mais je ne savais pas exactement quelle était la teneur de de quoi elle parlait vraiment, ce qu'elle disait, ce qu'elle révélait. Surtout qu'il y avait des trucs d'extrait de lettres, de machin. J'étais là, mon Dieu. Et bien sûr, 250 autres personnes m'avaient parlé sur Twitter et me demandaient mon avis. Alors, 150, j'exagère vaguement ma popularité, mais voilà. Et à, je sais pas, midi, 13h, je craque, je me dis, ok, je vais lire le truc, parce que si je le lis pas, voilà, ça va. Donc je lis le truc, et là, gros moment de soulagement. Ah, d'accord, elle est juste en colère. Enfin, elle est juste en colère. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, ma première impression à ce moment-là, c'est, ouais, ok, en fait, il l'a trompée, de façon répétée, pratiquement, je pense, pendant tout leur mariage. De ce qu'on a l'air de comprendre, c'est pas très clair, parce que justement, il n'y a pas de ligne narrative claire dans ce qu'elle dit, il n'y a pas de chronologie claire. Elle sous-entend plein de choses, mais elle n'est pas vraiment spécifique. Mais en gros, à la fin de leur mariage, il lui a écrit une lettre où il lui a avoué tout ce qu'il avait fait, y compris le fait qu'il considérait qu'il était coupable de l'avoir empoisonné petit à petit, pas littéralement, hein, en lui mentant et en lui cachant cette partie de lui-même, et que probablement il l'avait fait par ego. par désir d'être à la fois un type bien, ouvertement et secrètement, un mec qui séduit des femmes. Enfin, moi, ça me semble très extrêmement honnête. Mais, et voilà. Et donc, elle explique la souffrance dans laquelle elle est. Elle explique que ça fait depuis cette séparation, depuis ce moment-là, en fait, elle souffre de complexe PTSD, donc une complexe forme de stress post-traumatique, qu'elle commence à peine à reprendre goût à la vie, à reprendre sa carrière et tout un tas de choses. Donc voilà, sa souffrance est évidente. Mais le problème, c'est qu'elle tire aussi une conclusion. Elle dit, il m'a utilisé comme un bouclier pour pouvoir tranquillement séduire des meufs. Genre, il a utilisé notre mariage pour faire croire qu'il était féministe. Et ça, le fait de caractériser son action comme ça, pour moi, le souci, c'est juste que là, t'es en train de tirer un jugement, de porter un jugement sur un comportement de quelqu'un d'autre qui... Les gens ne sont pas aussi faciles que ça. Les gens sont tous complexes. Et l'idée que... Tu vois, c'est un peu l'idée de dire de quelqu'un d'autre qu'il est machiavélique. Personne n'est vraiment machiavélique. Les gens... Enfin, voilà, je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast. Les gens ne sont pas machiavéliques. Les gens essayent plus ou moins de stratégiser, mais en réalité, ils sont assez peu en contrôle de ce qu'ils font. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables, hein, mais une fois de plus, sa responsabilité, clairement, il la reconnaît. Mais il y a vraiment quelque chose dans l'idée où elle... Et tu sens que c'est quelque chose d'autodétestation, tu vois, de trucs de... J'ai rencontré plein de gens qui ont été bafoués, qui ont été trompés, y compris moi d'ailleurs. Et beaucoup de gens qui ont souffert de ce genre de choses, des hommes comme des femmes, ont tendance à relire l'histoire en disant que l'autre était un bourreau, un traître, un pervers et tout. Des fois, c'est vrai. Des fois, tu te rends compte que tu as été maquée avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique pendant 10 ans. Mais très souvent aussi, on a tendance à vouloir voir l'autre comme le mal incarné parce que c'est plus facile ou même parce que la société nous pousse à le faire. Et des fois, c'est pas plus facile. Des fois, c'est pire. Parce que des fois, ça te donne l'impression que toi, tu as été victime d'un bourreau, que toi, tu as eu tort de faire confiance, tu as eu tort d'aimer. Et donc, je comprends que quand tu penses comme ça, tu souffres ensuite de souffrance post-traumatique.
Mmh. Oui.
Donc, toutes ces choses-là, moi, c'est ça que ça m'a inspirée. Et du coup, je me sentis beaucoup de compassion pour elle. Mais j'étais là, par contre, le fait que de dire que ça prouve que c'est un salaud, ouais, pas trop. Voilà, donc j'étais soulagée, j'étais contente. Et là, j'ai réalisé, dans les 3 jours qui ont suivi, que c'est devenu une espèce de hunting season. Donc, la saison de la chasse était ouverte sur Joss Whedon. Et tout d'un coup, une pluie d'articles. Alors, Whedonesque, au bout de 15 ans, a annoncé qu'il s'arrêtait de façon abrupte. Et dans le post, ils ont dit, si vous voulez nous dire au revoir avec un don, donnez à une association qui aide les gens souffrant de complexe PTSD. Qui est genre le truc passif-agressif de base, quoi.
Bullshit.
Soit tu dis, ah, mais c'est Sébastien, à cause, nous ne sommes plus pas d'accord avec ce qu'a fait Whedon, donc nous arrêtons. Soit tu dis, enfin, passons. Donc en plus, surtout qu'apparemment, ils faisaient de moins en moins de posts et qu'en fait, ils en avaient marre de toute façon, donc ils ont utilisé ça comme excuse, donc c'est vraiment n'importe quoi. Puis alors, on a le droit, mais de toute façon, Buffy n'a jamais été féministe, mais Joss Whedon n'a jamais été un féministe, il a toujours été un misogyne. Avec des espèces d'articles de choses dont j'ai déjà entendu parler, que j'ai déjà lues, des espèces d'analyses cheloues qui t'expliquent que, tu vois, par exemple, Buffy, c'était un truc que quelqu'un a retrouvé sur The Mary Sue, je ne sais plus qui, mais elle a, je crois que c'est MDSR, je ne sais plus comment on écrit son Twitter, qui a décomposé tout un article de The Mary Sue qui date de 2011 sur le fait qu'en fait Buffy n'a jamais été une série féministe et qui explique que notamment ça ne peut pas être féministe parce que les Slayers ont été créés par des hommes. Et t'es là, ok, donc ça veut dire qu'à partir du moment où ça a été créé par un homme, ça ne peut pas être... What? Enfin bon... Toutes ces conneries-là sont toutes remontées à la surface et une espèce de jugement en général. Et donc, du coup, j'ai passé voilà, des heures à répondre, à écrire sur... parce que,
À parler.
Et alors, du coup, à ce stade de la conversation, je vais te demander, toi, Marine, qui n'est pas du genre, enfin, moins que moi, à t'arracher les cheveux pendant des heures et des heures et des heures sur Internet, ce genre de sujet, qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire?
J'essaie de rester un peu à l'écart de tout ça parce que c'est tellement taré. Moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est une connerie monumentale du fait que, enfin, de tout ce qui se passe, enfin, comment les gens réagissent, c'est... J'ai toujours du mal à comprendre comment ça peut prendre cette ampleur, en fait. Enfin, que les gens soient toujours, voient toujours le côté toujours négatif et critiquent quelque chose qui, je veux dire, Joss est un féministe, point. Ça s'est prouvé, il a fait des actions qui ont prouvé ça. Et juste par une action qui arrive à 98% de la population mondiale, c'est-à-dire cheating, parce que tout le monde trompe quelqu'un différemment. Tu peux tromper quelqu'un en couchant avec quelqu'un, mais tu peux tromper quelqu'un en faisant autre chose. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. Je veux dire, on fait tous des conneries. Et que je comprends qu'elle, elle a besoin de dire son mal-être ou d'expliquer son truc. Genre, elle pouvait l'expliquer à son psy. Hein. Ça aurait été aussi tout aussi bien. Et peut-être qu'elle aurait pu...
En fait, elle voulait qu'on arrête de donner des prix à Joss pour son féminisme.
Oui, oui, non, mais voilà, bah, non. Je répète ce que je dis, elle aurait dû en parler à son psy. Son psy lui. Enfin.
Bah, je pense qu'elle a un psy de merde, moi, c'est ouais, ça.
Je pense aussi, ça c'est clair.
C'est moi ce qu'elle est pensée, c'est qui ton psy?
Oui, à partir du moment où tu racontes, en même temps, si tu rentres dans ton. dans ta fantaisie, que en fait, ton mec est un connard, si t'en parles à ton psy te croit.
Oui.
Après le psy n'était pas, c'était peut-être un mec, non c'était une nana qui s'est fait tromper aussi.
Et moi j'ai été trompée de façon assez magistrale par un mec avec qui je vivais depuis 4 ans et demi et qui est toujours quelqu'un qui est très proche de moi, c'était il y a un certain temps. Il m'a trompée pendant des mois et quand je l'ai appris on s'est séparés, mais ce que j'ai compris à ce moment-là de ma vie c'est qu'en fait l'adultère, qu'il soit dans un mariage ou pas, n'a rien à voir avec la personne qui est trompée en fait, sauf que la société nous apprend à prendre ça personnellement, à penser que si quelqu'un a été adultère, ça veut dire deux choses. Quoi, nous, on n'était pas assez bien, ou l'autre est un salaud. Mmh. Et je pense qu'aucune de ces deux choses n'est vraie.
Non. Non, puis surtout, en plus, il lui en a parlé. Enfin, ils en ont parlé. Je veux dire, après, il s'est excusé, etc. Et le fait de s'excuser ne suffit pas pour le pardonner, je suis tout à fait d'accord. Mais il a toujours...
Mais ça sous-entend pas qu'il respecte.
Il a toujours eu fait ce unalage. Enfin, il a toujours été conscient de qui il était. Il a jamais menti sur le fait qu'il avait trompé sa femme.
Enfin, il a jamais menti. Il lui a menti pendant 15 ans.
Oui, oui, mais avec elle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il lui a menti pendant 15 ans. Mais après, ils en ont. Enfin, je veux dire, c'est leur problème, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est en plus, c'est genre, c'est le problème aussi de la. Enfin, d'être célèbre aussi, c'est que finalement tout est étalé dans les journaux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la réaction des gens, quoi.
Bah. Moi, ce que j'ai vu, alors donc j'ai eu plusieurs trucs, certains d'amis proches que j'adore, même si je les cite là comme des contre-exemples. Mais tu vois, j'ai eu le premier truc, ça a été oui, mais en même temps, c'est comme oh, mais il faut pas mettre ces gens-là sur un piédestal, du coup on n'est pas déçus, c'est comme Noir Désir.
Oui, tu m'as raconté ça.
Donc, la personne en question, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je tiens à le préciser, mais bon, il se trouve que pour elle, la violence psychologique de tromper quelqu'un est pire que la violence physique. Donc c'est là que tu vois que chacun, quand je parle de la réalité...
Tu veux dire de tuer quelqu'un? C'est pareil que de... Parce que...
Voilà, oui, non mais voilà. Donc ça, ensuite j'ai quelqu'un d'autre, où quand j'ai commencé, fini par écrire un post sur Facebook en disant « Les gars, vous me saoulez avec vos conneries. » Quelqu'un m'a quand même retweeté en disant... parce que du coup, j'ai fait une photo du truc, je l'ai mis sur Instagram, je l'ai mis sur Twitter. Et il y a un mec qui m'a quand même retweeté en disant « Ah bah voilà, c'est comme Allen et Polanski. Le mec est une ordure, mais on aime bien ce qu'il écrit, alors on laisse passer. » Et je me suis permis de dire, un, que c'était une réduction lapidaire de mon propos, où j'étais quand même en train d'expliquer que... Mais effectivement, dedans, j'ai dit, assez spécifiquement, que de juger quelqu'un sur le mal qu'il a fait par le passé... était vain, cruel et j'ai pas dit stupide, j'ai dû dire un autre truc beaucoup plus poétique, mais je pensais stupide. Et en fait, le mec, et du coup, je lui dis, mais excuse-moi, donc un, c'est une réduction lapidaire de ce que j'ai dit, et deux, ben, c'est un peu dangereux, non, de faire un amalgame entre l'adultère et les agressions sexuelles. Et le mec me répond, et c'est peut-être pas dangereux de dire que de juger quelqu'un sur les trucs du passé, c'est vain. Et c'était là, mais. Vous connaissez le concept de rédemption ? Non, parce que tu vois, t'as l'impression que quand il dit ça, il pense que quelqu'un a assassiné 25 personnes il y a 15 ans et il vit maintenant heureux et on devrait le laisser tranquille. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand t'as fait une erreur par le passé et que tu l'as reconnue, donc effectivement, d'ailleurs, je me suis excusée, au lieu plutôt de l'insulter, je lui ai dit l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu vois, c'est pas parce que moi j'ai dit un truc que tu considères dangereux que toi, ce que t'as dit est pas dangereux déjà. Mais en fait, on est sur un truc sur l'illogisme des conversations sur Twitter et autres qui sont en plus complètement lapidaires tout le temps parce qu'elles sont rarement complexes et où les gens s'accrochent avec le truc auquel ils sont pas d'accord et montent une espèce de tribune dessus et du coup il y a peu de vraies conversations. Il y en a qui est possible et d'ailleurs j'ai eu des contacts personnels avec plein de gens qui m'ont lu sur Facebook, sur Twitter et compagnie, des anglophones et des francophones, notamment des gens des Whedonistes. Parce que sur le site, sur la page Facebook de Whedon Association, c'était aussi un bordel monstre. Et avec ce truc, où t'es quand même sur un truc où pratiquement il n'y a que la Whedon Studies Association, c'est pratiquement que des universitaires. Et quand même, tout le monde a commencé à monter des trucs où c'est de l'évidence, de la preuve anecdotique. Et ce truc de le fait qu'il a trompé sa femme prouve qu'il ne respecte pas les femmes, prouve probablement qu'il a utilisé son faux féminisme pour séduire des jeunes femmes et les exploiter. Et t'es là, what? Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas avoir un propos féministe construit et intelligent si on fait ça. Parce que du coup, ça discrédite toutes les autres réelles problématiques qui existent, y compris la problématique de M. Joss, qui est que clairement, il souffrait d'une représentation masculine qui dit qu'un mec qui couchait avec plein de meufs, c'est un mec plus cool, et que probablement, je ne vais pas le dire à l'insu de son plein de meufs, parce que c'est pas vraiment ça, mais à son corps défendant, en tout cas, il n'a pas été en mesure de ne pas le faire. Il s'est laissé aller à la tentation d'accomplir ce fantasme-là, d'être un homme à femme. Et ce fantasme, il vient d'où? Il vient aussi de la représentation et de la culture et de la fiction. Et clairement, ça veut dire qu'on a un problème. Clairement, ça veut dire qu'on a un problème aussi, parce que plein de nanas se sont probablement jetées sur lui parce qu'il avait du pouvoir et parce qu'il était, il avait du succès. Et que généralement, les femmes à pouvoir et succès aussi ont ce genre de phénomène de façon beaucoup moins importante, parce que les femmes ne sont pas représentées comme attractives quand elles ont du pouvoir et du succès, contrairement aux hommes. Donc oui, il y a une vraie question féministe dans ce qui s'est passé avec Joss, parce que Joss s'est avéré être un putain de cliché de merde. Mais il en grandit, on espère, et puis moi j'attends, qu'est-ce qu'il va faire de ça, maintenant que c'est public? Maintenant que c'est public, est-ce qu'il va... Parce que pour moi déjà, Avengers 2, ça parle de ça. C'est un film sur le divorce. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il va maintenant parler de l'adultère dans sa fiction? Et je l'espère, parce que c'est un vrai sujet dont il faut parler. Moi, ça me fait penser à... Comment il s'appelle le mec qui a écrit... L'auteur japonais, le romancier japonais qui me fait tout le temps penser à Milan Kundera.
Murakami?
Ouais, Murakami. Tu vois, j'ai compris de qui je parlais. Il a un de ses bouquins comme ça, où il parle du fait d'avoir trompé justement son premier amour, et ensuite d'avoir quitté le village où il venait pour aller à Tokyo, et dans le train il avait réalisé qu'en gros il venait de lui briser le cœur et qu'il était une merde, et dit c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé que je pouvais être quelqu'un de mauvais aussi. Et il y a quelque chose de tellement juste dans cette idée qu'on n'est pas bon ou mauvais, et que comme dirait Joss, et comme l'a écrit Carole le lendemain de la publication de ce post ou le soir même, ce qui est important, tu peux pas contrôler les gros trucs qui t'arrivent, ce qui est important c'est comment tu agis après. Donc maintenant la question est comment Joss va agir. En tout cas, moi je suis en train d'écrire quand même dessus. Il s'avère que je voulais écrire un petit blog post, ça devient un peu, donc, comme je disais, un manifeste.
Un mémoire.
Aussi. Où ce dont j'essaie de parler, à la fois c'est de la problématique d'être féministe et de commenter par rapport à ce genre de sujet en étant du côté du mec, si, tant qu'il y a un côté, parce qu'en réalité, moi, j'ai toute ma compassion à Kai Cole, même si elle faut qu'elle change de psy, je pense qu'elle faut qu'elle change de psy, parce qu'elle a l'air de souffrir, et que je suis pas sûre qu'elle soit obligée de souffrir de cette façon-là. Après, elle peut détester Joss jusqu'à la fin des temps, c'est problématique pour leurs enfants, mais ça, c'est pas le problème. La question, c'est que là, elle a l'air d'être en souffrance plus que nécessaire, selon moi. Mais ça parle aussi du fait que j'ai plein de réflexions en ce qui concerne ce qui s'est passé avec Joss, et que quelque part Twitter et Facebook voudraient que j'ai une réflexion. Alors oui, j'en ai une, je l'aime encore plus qu'avant, mais ça c'est aussi lapidaire, parce que ça pourrait donner l'impression que je m'en fous de ce qui s'est passé, et c'est pas complètement vrai. Et finalement aussi, en général, sur cette espèce de culte de la pureté qui traîne sur Internet et qui m'intéresse vraiment, le fait qu'on a tendance à crucifier particulièrement les figures de gauche dès qu'elles ont dit une parole qui va pas bien, et en fait, en gros, on passe tellement de temps à se taper dessus entre gens progressistes que finalement, effectivement, on n'accomplit pas grand-chose. Et pendant ce temps-là, le monde se fascise, le monde se droitise, le monde se durcit, et j'étais là, les gars, on peut arrêter de se taper dessus deux secondes pour genre faire face au reste. Et j'ai envie de dire, la campagne électorale américaine de Hillary Clinton le prouve bien. Donc voilà, je pense que ça, c'est des sujets importants. Effectivement, on est peut-être en train de s'approcher d'un travail universitaire dans mon avenir. On verra. On va y revenir dans un des chapitres suivants de ce podcast. Bon, là, ça fait, je pense, 250 minutes que je parle de Joss. Un peu moins, mais pas beaucoup moins. On va passer à quelque chose de plus léger.
Oui.
Parce que quand même, au bout de 3 jours de Joss Mania dans ma tête, on avait quand même prévu une soirée fun avec une copine, Hélène, qui n'avait jamais vu...
Miss Congeniality.
Voilà.
Qui s'appelle...
Miss Détective.
Miss Détective...
On a une longue conversation sur les différents titres et apparemment, elle était d'accord. Enfin, selon elle, le meilleur titre, c'est le titre
allemand
qui est Miss Undercover. Ce qui est effectivement pas mal. Donc, Miss Congeniality, grand film culte de l'an 2000, il me semble, avec notre amie Sandra Bullock, qui est une agent du FBI pas très soignée physiquement, qui se retrouve à devoir se faire passer pour une Miss America. Enfin, pour une candidate
Miss New Jersey.
America. Ouais. Miss New Jersey, ce qui est assez drôle aussi. Donc voilà, c'est un film avec Michael Caine et...
Il y a Benjamin Pratt.
Oui.
Comment il s'appelle Pratt. Je crois qu'il a un nom...
Je ne sais pas. Mais comment s'appelle la chef des Miss?
Ah oui.
Putain, j'adore cette nana en plus.
Ah, j'ai oublié son nom.
C'est Murphy Brown.
Oui, c'est Murphy Brown.
Candice Bergen.
Elle a fait un truc, je crois qu'elle a trouvé, j'ai trouvé.
Et surtout, j'adore Murphy Brown. Murphy Brown, c'est une sitcom de Netflix.
Il y a William Shatner aussi dedans.
Je vais finir par vous parler un jour. Il y a William Shatner dedans aussi. Donc, on a montré ça à Hélène. Alors, tu l'avais pas vu depuis combien de temps, toi?
Je sais plus, parce qu'il est quand même sur mon ordinateur et c'est dans mes crap I like. Donc, je sais plus. Mais peut-être 2 ans.
Et alors?
Ah ben toujours pareil, toujours super. Ça me fait rire, elle est géniale.
C'est ça, elle est très attachante. Je pense qu'il y a quelque chose sur le positivisme de ce film.
Puis elle joue bien la nana. La nana qui n'a rien à foutre de son style et où elle va être. Enfin, elle va manger ça. Quand elle, surtout quand elle mange sa glace, je pense toujours genre. C'est disgusting, c'est genre t'as les lèvres qui sont remplies de lait et puis elle parle puis elle a un rire aussi, elle est de cochon comme ça toujours et ça elle l'a encore quand elle est encore Miss,
oui.
Ce truc qu'elle garde et tout le monde et les nanas s'arrêtent genre qu'est-ce qu'elle fait genre
mais ce que j'aime bien c'est que les Miss se soutiennent les unes les autres, il y a un truc sur le fait qu'elles sont, enfin c'est pas une version tu sens qu'elles veulent gagner, mais malgré tout, il y a le côté, contrairement à Drop Dead Gorgeous, que j'avais jamais vu d'ailleurs, mais tu sais, avec l'idée qu'elles sont toutes des salopes qui veulent se...
Voilà. Ah ouais.
Là, il y a un truc très différent et tu sens qu'il y a vraiment le côté où elles découvrent le fait que les filles qu'elles pensent être des mean girls parce qu'elles vont la juger sur son apparence, mm-hmm. qu'en réalité, c'est... En fait, l'apparence, je trouve que ce que ça montre, c'est que l'apparence, c'est comme un code comme un autre. Et par exemple, si t'es entourée d'universitaires et que t'as quelqu'un qui lit pas de bouquins parce que voilà, dans sa vie, ça s'est pas fait comme ça, ils vont se sentir probablement au début d'une forme de communication rejetés, jugés, mal à l'aise. Mais en réalité, c'est juste un code, c'est juste un langage, comme une langue étrangère. Il y a plein de gens, quand ils arrivent dans un pays dont ils parlent pas la langue, ils ont l'impression que tout le monde est méchant avec eux. Ça dépend des pays, mais surtout quand ils viennent en France. Et en fait, tu vois, par exemple, les étrangers me disent toujours les Français, ils aiment pas les gens qui parlent pas français, les Français, ils aiment pas les étrangers. Et je leur dis, mais c'est pas vrai. Les Français, ils se sentent mal à l'aise de pas maîtriser les langues étrangères. Enfin, moi, c'est mon truc. Du coup, ils ont, comme quelqu'un toujours de mal à l'aise, ils sont un peu froids et un peu distants.
Ouais.
Et ça donne l'impression aux étrangers que c'est du mépris. Et je pense qu'il y a vraiment ça dans tous les cercles, ça marche. Et que là, ce truc, c'est de dire, c'est pas parce que les filles, elles sont belles et apprêtées et tout, et que quand l'autre arrive, elles vont quelqu'un de normal, enfin qui n'est pas passé par le training de Michael Caine et qui du coup ressemblerait à ce qu'elle ressemble, est jugé et traité au départ, c'est juste une question de code. Mais qu'en réalité, si ces codes sont passés, si ce truc-là est désamorcé, en fait, tout le monde peut s'entendre.
Tout à fait.
Et et puis je sais pas, il y a un truc female positive, il y a plein de personnages féminins, c'est même quand Candice Bergen, tu la comprends le fait qu'elle a donné sa vie pour un truc et qu'ils veulent l'évincer et tout parce qu'elle est vieille. Ouais, non, c'est pas mal. Et puis surtout, c'est le genre de film, tu te dis tout le temps les trucs comme ça, ça va être que avec 17 ans de recul, ça va paraître hyper sexiste. Et en réalité, pas vraiment. Franchement, il y a pas de trucs qui m'ont choqué. Alors, je suis sûre que certaines personnes diraient
non, puis ils montrent bien les mecs qui regardent des nanas, tu sais, enfin qui genre
ils sont, pervers,
ils sont dans les, ils ont les caméras et ils sont dans les vestiaires. Je veux genre mais
Enfin, c'est eux qui passent pour des cons, c'est pas...
Exactement,
c'est
ils te montrent le truc... Non, tout à fait.
Donc voilà, et puis bien sûr, parce que vu qu'on était en soirée Sandra Bullock, machin, on s'est dit, oh, ben on peut peut-être montrer un autre film à Ailet.
Oui, et on s'est dit, The Proposal. C'est quoi le titre français?
Je crois que c'est La Proposition.
Ok.
Ce qui n'a aucun sens, mais...
Avec Ryan Reynolds.
Qui est quand même un super film. C'est rigolo, parce qu'en le revoyant, j'ai réalisé à quel point c'est un bon film. Parce que c'est un film bien écrit, c'est un film où les personnages sont vraiment réfléchis, c'est une comédie romantique, mais elle n'est pas du tout ridicule. Et au contraire, tu peux complètement imaginer comment... Parce que généralement, le problème des comédies romantiques, c'est qu'il y a le passage du « je te déteste » à « je t'adore » est toujours un peu problématique parce que ça va un peu trop vite. Et tu dis « mais attends, mais donc en fait, tu mentais avant parce que tu te détestes. Enfin, » tu vois. Et là, il y a quelque chose de... C'est complètement crédible, en fait. Ça marche très, très bien. Ouais. Parce qu'ils se connaissent déjà parfaitement l'un l'autre, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté... Tu vois les mécanismes déclencheurs qui font que tout d'un coup ils réalisent ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont envie de ressentir. Mm-mm. Y compris le fait qu'à la fin, spoiler, ils lui disent je veux t'épouser pour pouvoir sortir avec toi, ce qui montre bien la awkwardness de leur situation et pas je veux t'épouser parce que je sais que tu es la femme de ma vie pour toujours, c'est dit en fait
I want to date you.
Donc voilà, et il y a plein de super acteurs, plein de super trucs, c'était hyper fun. En plus Hélène elle s'est trop éclatée, elle était là on peut revoir la scène.
Ah oui, c'est vrai.
La scène du réveil, qu'est-ce que c'est drôle.
La scène du réveil, surtout, absolument, j'en ai.
Et donc, ça va dans ma
tête. The morning.
It's morning. Hein? Oh. Pour ceux qui ont vu, ils comprendront. Et il y a un truc très, très drôle sur le fait que je pense que Ryan Reynolds est parfait quand il est censé jouer un mec gentil, propre sur lui, et qui, en fait, pète un câble, et qui, tout d'un coup, est submergé par ses propres émotions. Plutôt que quand il fait un gros dur, parce qu'il n'est pas du tout crédible. Et en gros, hashtag Deadpool, que j'aime bien pour son de ses intentions, que j'aime bien pour plein de raisons, mais j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire à lui, en fait. Et donc, voilà. Ça se trouve, je pense pas que c'est un salaud. Clairement, il a pas l'air d'être un salaud.
Bah non, parce qu'en plus, on a vu des trucs...
Oui, c'est
on a vu un article avec Blake Lively qui parle de lui, en fait.
Ouais.
Et tu vois, quand Blake Lively parle de son mari et du père de ses enfants, tu vois qu'elle parle d'un mec vraiment bien, quoi.
Ouais, et puis lui, elle aussi, que j'ai toujours pris pour un labrador.
Ils se sont trouvés... Non, mais en plus, ils se sont bien trouvés.
Ils sont tous les deux
Ça a l'air cool. Ça a l'air de se faire... Non, c'est cool, franchement. Puis moi, c'est un des films, proposons, je le regarde genre tous les 6 mois, quoi.
Parce que c'est vrai que... Alors, c'était rigolo, parce que
Alaska.
Du coup...
Alaska. C'est... Yeah.
Mais c'est vraiment... Il est vraiment mieux écrit que ce qu'on pourrait... Enfin, tu vois, ce que je... Que même dans mon souvenir, j'ai tendance... C'est là que tu vois que tu es... Pour revenir à la thématique de la semaine sur la réalité subjective et objective, c'est là que tu vois à quel point... Enfin, moi, je vois à quel point je me suis quand même conditionnée par l'opinion extérieure. Mm-hmm. Surtout les trucs auxquels je n'ai pas beaucoup réfléchi. Et que malgré tout, malgré mon plaisir pour ce film, je ne peux pas m'empêcher d'être conditionnée par le fait que c'est vu comme un petit film ou comme un film romantique ou qui a été un gros succès mais qui n'est pas très intéressant. Et du coup, dans ma tête, vu que je ne l'ai pas vu assez de fois pour changer d'opinion, enfin, mm-hmm. jusqu'à présent, je l'avais catégorisé comme tel, malgré mon opinion personnelle. Mm-hmm. Et c'est là que tu vois que la narrative, c'est-à-dire que la narration autour d'un objet ou d'une personne qui se crée à l'extérieur de la personne, donc vraiment l'espèce de conversation, me dire l'inconscient collectif ou le conscient collectif peut-être, autour de quelque chose, t'influence que tu le veuilles ou non.
Ouais.
C'est ça qu'il faut faire toujours attention. Beware of the narrative. C'est ce que je dis tout le temps. Et un jour, je me dis, je vais finir par le tricoter sur une grande couverture. Je promets ça depuis 2 ans, mais un jour je le ferai. L'autre blague, c'est qu'on était à fond dans la thématique non, Joss n'est pas un antiféministe salaud, et Sandra Bullock, sa carrière, elle la doit à Speed. Et Speed, c'est un film dont le scénario ne fonctionnait pas. Ils ont demandé à Joss Whedon, qui était à l'époque surtout un script doctor, de venir réparer, de contribuer. Et il a réécrit pratiquement tous les dialogues, c'est la version officielle, même s'il n'est pas crédité, parce qu'il y a eu une bataille avec le syndicat des auteurs, où ils ont dit que l'autre avait, le premier scénariste avait le droit dans son contrat d'être crédité quel que soit les changements faits au scénario. Donc du coup, Joss Whedon n'est pas sur l'affiche. Il a été sur la première affiche sortie qu'il a dans son bureau, mais ensuite ils l'ont enlevé de l'affiche. Et ce qu'il a fait apparemment en réécrivant ses dialogues, c'est qu'il a complètement modifié le personnage de Sandra Bullock. Il lui a donné beaucoup plus de personnalité, une vraie identité, d'une vraie force d'action. Il l'a rendu spirituel, drôle, fun. Et ça, je pense que c'est la meilleure preuve. de son féminisme. Que son premier truc, il est dit, ce personnage féminin là, il est vide, il est bleu, il est inintéressant, il est pas. On va le booster parce que j'ai envie qu'elle soit drôle et intelligente et charmante.
Ouais.
Et le fait que pour la rendre plus charmante et plus attractive, il l'ait rendue plus smart, ça en dit long aussi. Ça en dit long sur le fait que Joss Whedon, malgré le fait que dans sa vie personnelle, il a été le cliché le plus basique de la patriarchie, du patriarcat, en français, dans le texte, et ben, dans son œuvre, il essaye vraiment, vraiment de changer les choses. Bon. Par contre, en essayant d'expliquer Sandra Bullock et pourquoi elle était géniale à Hélène, parce que tu sens qu'elle est pas trop pop culture, enfin, donc elle se dit les trucs des fois qui lui échappent. Et je dis, par contre, elle a gagné l'Oscar pour le film le plus pourri de sa carrière. On est d'accord, The Blind Side, c'est horrible comme film.
J'en avais oublié de l'existence avant que tu m'en reparles. Donc, oui.
Moi, je me rappelle comme un truc assez horrible à regarder. Et c'est vrai que c'est hallucinant parce que tout le monde était tellement heureux qu'elle ait l'Oscar. Parce qu'on voulait tellement qu'elle gagne l'Oscar. Parce qu'on adore Sandra Bullock. Quand je dis on, c'est nous, le public, tout le monde. Et en plus, elle est tellement smart. Tu sais qu'en plus, elle parle parfaitement allemand. Oui. Qu'elle a de la famille en Allemagne. Je sais, c'est con, mais moi j'aime les gens qui parlent allemand. Il y a Trevor Noah, il y a Sandra Bullock et il y a Tina Fey. Et pour ça, je les adore tous.
Mais qu'elle fasse bonne par allemand aussi, je crois.
Bah oui, mais lui il est allemand.
Oui.
Bon. Il a une mère allemande.
Oui, mais bon, on l'a.
Un père irlandais, une mère allemande.
Une raison. C'était quoi ce.
C'était Yam.
Je te laisse récolorier. Je te laisse récolorier.
Michael
Fassbender et son bouton.
Moi, c'est plutôt Alexander Skarsgård et sa chemise ouverte que je veux coller.
That's mine.
Hashtag Color Miss Woon. Autre chose à dire sur Sandra Bullock, on passe à la deuxième controverse de la
passe à la deuxième controverse, vas-y.
Repu par cette expérience pop culturelle rafraîchissante de passer du temps avec Sandra Bullock, je m'apprête le lendemain matin à partir en Italie. Ce que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux savent déjà parce que j'en ai largement parlé. Or, quelques jours plus tôt, deux jours plus tôt, notre amie Taylor Swift, alors je dis notre amie, mais ce que, en fait, moi, j'espère que, au fond de moi-même, c'est un peu une copine. En tout cas, elle me tient compagnie souvent avec sa musique, donc j'ai déjà parlé d'elle, je reparlerai d'elle, notamment quand son album va sortir, mais moi, j'adore Taylor Swift, et quand je dis ça, je veux dire que j'écoute pratiquement toute sa musique, tout le temps, plein de trucs de plein de périodes différentes. Taylor a 17 ans, Taylor a 19 ans, Taylor a 22 ans, Taylor a 25 ans. Elle est multiforme, elle écrit très très bien, c'est en même temps toujours rafraîchissant, toujours léger, enfin j'adore. Il y a un peu un côté kitsch dans l'orchestration de sa musique qui m'a arrêtée, quelquefois au début et puis par rapport à certains de ses titres, mais au fond du fond je suis quand même assez fan d'elle comme, en tant que musicienne, mais aussi après de tout un tas de choses qu'elle fait publiquement, de sa persona. Et elle annonce un nouvel album, elle annonce un nouveau single. Alors, elle fait un truc un peu spectaculaire. Elle efface tous ses comptes, enfin, tout le contenu de tous ses comptes de ses réseaux sociaux et tout d'un coup, lance trois petites vidéos qui, à la fin, forment la vidéo d'un serpent.
Ouais.
Elle a été appelée serpent par Kim Kardashian l'année dernière pour un truc, une sombre histoire dont je parlerai un autre jour parce que je vais faire un vrai truc où je vais reprendre tout Taylor Swift, mais là, je vais pas vous rentrer dans toutes les controverses, ça me va trop m'énerver. Donc, elle réutilise la critique qu'on lui a faite. Et ensuite, elle poste sur Instagram, j'adore, parce clairement, il n'y a pas eu de communiqué de presse, enfin, en tout cas, je pense pas, de communiqué de presse ni quoi que ce soit. Elle a juste posté trois trucs sur Instagram. La couverture du nouvel album, qui s'appelle Reputation, le fait qu'il y aurait un single qui sortirait jeudi soir, et la date de la sortie de l'album, le 10 novembre. Ok, donc là, je me dis, oh mon Dieu, Taylor Swift sort une chanson d'un album qui s'appelle Reputation. En fait, ça va être le soundtrack de mon article sur Joss Whedon. Genre... c'est le parfait moment, elle comprend. Elle comprend ce que c'est que d'être injustement traitée par Internet. Et le jeu vendredi, donc je m'apprête à aller à l'aéroport, j'oublie totalement que la chanson est sortie, j'arrive à Berlin, à l'aéroport de Berlin, j'attends mon avion, tout d'un coup je me redis oh « Putain, Taylor Swift !» Je vais vite, j'avais le wifi, je vais vite sur iTunes, j'achète la chanson pour pouvoir l'entendre. Donc d'abord je regarde le clip parce qu'il y avait un clip qui est sorti immédiatement mais qui n'était pas le clip avec elle, c'est un lyrical vidéo, donc c'est un clip avec toutes les paroles et un espèce de dessin animé. Donc je regarde ça me plaît bien, tout va bien, je trouve la chanson pas mal, je réfléchis pas trop au truc, je me dis tiens on va voir et tout, je me rends compte tout d'un coup quand même que je l'ai écouté 6 fois de suite sans m'en rendre compte pendant que j'étais en train d'attendre l'avion. Ok, tout va bien, j'arrive à Düsseldorf pour mon changement. Et là, bingo, on avait une heure de retard, donc le vol était parti sans moi. Je me retrouve coincée pendant 6 heures à l'aéroport de Düsseldorf avec le Wi-Fi.
Avec le Wi-Fi, quand même.
Oui, mais finalement, si j'avais pas le Wi-Fi, j'aurais peut-être continué à écrire sur Joss, qui était censé être ce que je voulais faire. Sauf qu'à la place, bien sûr, j'ai voulu regarder sur Twitter. Et là, j'ai vu la déferlante d'insanité, de saloperies, d'articles de médias institutionnels qui expliquent « Ah, mais Taylor Swift a fait la plus grosse erreur de sa carrière avec cette chanson. Comment est-ce que Taylor Swift a fait ça? C'est du plagiat de ça, machin, machin. » Donc après, je reviendrai vaguement sur toutes les choses qui ont été critiquées. Mais en gros, du coup, j'ai passé des heures à m'énerver à écrire et j'ai fini par écrire. Je n'arrive pas à trouver l'énergie de dire que Internet est méchant avec Joss parce que je suis épuisée par le fait que Internet est méchant avec Taylor
Swift. Ouais.
Ce que je trouve très intéressante. Tiens, maintenant je mets des trucs au féminin.
Sur oui, tu dis.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que tout le monde a tapé sur Joss parce que c'était un salopard de misogyne, exploitant de femme parce qu'il avait trompé sa femme. Par contre, il n'y avait aucun souci au fait de tabasser sur Taylor Swift pour des raisons totalement plus ou moins absurdes. Enfin, c'est pas vraiment absurde, c'est en gros chacune des raisons pour lesquelles les gens la jugent ou la critiquent, très souvent, quand tu retournes derrière, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé avec Joss, c'était quelqu'un a caractérisé une action ou une situation de X, Y ou Z, et ce X, Y ou Z est considéré comme un fait. Quelqu'un a dit « elle est égoïste parce qu'elle a fait ça », et les gens ensuite disent « elle est égoïste ». Sans remonter à la source, sans parler du fait que la caractérisation mérite analyse, mérite questionnement, mérite conversation, mérite discussion. Toi, tu as vu, à part le fait que moi je devenais folle, parce que moi j'étais en Italie du coup pendant 3 jours, donc t'as pas eu 3 jours de « t'es la suite, t'es la suite, t'es la comme ma mère a eu le droit. Toi, t'as suivi le fait que les gens disaient du mal de la nouvelle chanson
Non, du tout, parce que je suivais pas du tout. J'ai même pas écouté la chanson, j'ai même pas vu le clip.
Non, mais c'est, justement, c'est pas ça que je te dis. C'est, est-ce que quand on est le temps sur Facebook ou sur Twitter,
non,
est-ce que t'as entendu parler
après,
du
fait Non, j'en ai entendu après que tu sois rentrée et que tu m'en aies parlé, en fait.
D'accord. Bon, bah, déjà, c'est déjà ça.
Je bossais beaucoup, donc en même temps, j'étais pas sur Internet.
Ce que j'ai réalisé, en tout cas, c'est que le discours négatif, de toute façon, on en parle beaucoup moins en dehors des États-Unis. Et ce que j'ai réalisé surtout, c'est rigolo, qu'en fait, le discours négatif était surtout lié, en fait, à Twitter. Enfin, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux, et les blogs. Mais les blogs institutionnels. Les blogs de New York Magazine, les blogs de tout un tas de trucs. Et en fait, que c'était les commentateurs de culture populaire professionnels qui en parlaient, et de façon hyper... en fait, ce qui était hyper désagréable, c'est qu'il y a une différence entre dire « j'aime pas cette chanson » et de dire « cette chanson est la preuve que cette nana n'a aucun talent » ou cette chanson, elle est allée trop loin. Mais il y a quelque chose d'assez fabuleux et horrifiant à la façon dont aucune de ces personnes n'a de mal à traîner une jeune femme dans la boue parce qu'elle est puissante et donc elle est considérée comme avoir du privilège. Et il y a aussi le fait qu'on lui reproche exactement en même temps deux choses, d'être manipulatrice et du coup d'avoir tout calculé, d'être de tout penser, donc tout ce qu'elle montre n'est jamais vrai, tout est faux, tout est juste pour plaire, tout est juste pour faire avancer sa carrière et faire de l'argent. Mm-hmm. Et en même temps lui reprocher tout le temps qu'elle est stupide et qu'elle n'a aucun contrôle sur ses émotions et qu'elle croit qu'elle passe son temps à se plaindre de choses qui ne sont pas où elle ne devrait pas se plaindre et à se comporter comme une victime alors que c'est un bourreau. Donc clairement qu'elle n'est pas en contrôle de ses émotions et de l'expression de ses émotions. La question, c'est comment t'arrives à faire l'un et l'autre en même temps? Je ne sais pas. Mais ce qui est hallucinant, c'est le fait que cette chanson, que tu n'as pas entendue, dont tu vas être clip, mais que je vais te montrer tout de suite, qui s'appelle « Look What You Made Me Do », a été critiquée par beaucoup de gens, et de façon genre « c'est comme ça », pas « je me demande si c'est comme ça » et tout, mais genre ça a été caractérisé comme une hymne au désir de ne pas prendre ses responsabilités. Bon, voilà. Okay. Là, je vais te montrer le clip.
Petite interlude musicale pour vous rappeler d'aller sur le site, regarder le clip et de reprendre le podcast après.
It's brilliant. C'est super, il est génial ce clip.
Thank you.
Il est super et je ne suis pas une fan de Taylor Swift. J'aime beaucoup le personnage parce que j'ai suivi beaucoup de choses depuis qu'elle parle beaucoup de Taylor Swift à la maison. Donc je suis Taylor Swift sur Instagram. Et sur Twitter, mais parce que c'est une personne intéressante. Après, sa musique ne me touche pas, en fait. parce que c'est pas mon style et que, mais après là, sa musique ne me dérange pas, voilà, et je la respecte en tant qu'artiste. Donc déjà ça c'est pour situer. Je viens de voir le clip, c'est absolument génialissime, c'est super smart, c'est super intelligent, ça, tu comprends tout de suite ce qu'elle veut dire, enfin je veux dire, enfin par rapport à la réputation. Et surtout elle a pas peur de remettre en question plein de choses par rapport à son image, etc. Je veux dire, moi ce que je vois dans le clip, c'est le côté elle joue tous ses personnages, tous les Taylor Swift différents, et c'est genre toutes les images que les gens ont d'elle, en fait.
Aussi, ouais, c'est
donc
ça.
En gros, c'est vraiment genre...
C'est tout ce qu'elle a joué et tout ce que les gens ont assigné à son personnage.
Exactement, et en gros, elle a pas peur d'avoir l'air ridicule.
Non.
Donc en gros, elle va montrer le côté ridicule de toutes ces personnalités différentes, en l'assumant complètement, parce qu'elle fait ce clip-là. Et c'est génial, et la dernière phrase est géniale.
Ouais, c'est ça. C'est...
Non, c'est génialissime.
Et surtout, il y a un truc sur le fait que...
And I like the song.
Alors, donc bien sûr, un des trucs qui est sorti tout de suite, c'était, oui, c'est du plagiat, on dirait, too sexy for my show.
Oui, oui, tu m'avais dit ça, ouais.
Sachant que si tu regardes le truc, ils sont crédités. Mm-hmm. Il les a crédités comme co-auteurs de la chanson.
Ah ouais.
Ce qui est en plus du fait que, déjà, énormément de musique... n'est pas qui où ils utilisent des samples d'autres musiques, ne créditent pas les auteurs d'origine. Mm-mm. Mais là surtout le fait de les créditer, ça veut dire qu'ils sont associés au profit.
Oui.
A priori. Bon, enfin tu vois, j'ai pas vérifié ça, mais a priori ça veut dire qu'ils ont des droits d'auteur dessus. Vu que cette chanson va faire énormément d'argent, a déjà fait énormément d'argent, je veux dire, c'est une autre forme d'hommage de reprendre le truc et donner des sous. C'est intéressant de voir jusqu'à quel point, tu vois, Rihanna avec Don't Stop the Music a donné des sous pour le sample de Michael Jackson, qui était le sample de cet artiste africain dont j'ai oublié le nom, bien sûr. Tu sais, ce truc-là, qui est dans Started Something de Michael Jackson, mais qui du coup, les deux sont ensemble dans Don't Stop the Music. Et je me demande jusqu'à quel point ils ont des sous sur Don't Stop the Music, tu vois. Bon, et... mais c'est tellement... Et du coup, c'est... Et ce truc de voir ce clip et de dire... C'est le premier objet... Donc, Mark Harris de New York Magazine sur le blog Vulture a dit... C'est le premier objet de l'ère Trump parce que c'est une hymne au refus de prendre ses responsabilités.
D'accord. C'est con.
Ça pourrait être l'hymne de Trump. Oui. Et le truc, c'est que ça veut dire... Ce que ça veut dire, c'est qu'on sous-entend... qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Que tout ce qu'on lui a fait, qu'en fait, qu'elle joue la victime. Mais donc, ça veut dire qu'on ne légitime pas le traitement médiatique et personnel de certaines célébrités qu'on lui a fait.
C'est ça qui est génial. En même temps, il critique tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que même si elle joue la The Pretty Girl, ils vont dire genre, she's only a pretty girl. Elle montre juste qu'elle est pretty. Si elle est... Bitchy, ils vont dire qu'elle montre juste qu'elle est... Enfin, ils vont toujours reprendre le truc. Enfin, c'est ridicule. C'est complètement débile, les gens, quoi.
Et pour moi, du coup, ça... Alors, ça, par rapport au truc de Whedon juste avant, j'ai vraiment un truc sur la...
Pas les médias. J'aime pas Internet.
Mais du coup, il y a un truc sur le fait que... Mais moi, c'est terrible parce que toute ma vie, j'ai voulu qu'on prenne au sérieux la pop culture et qu'on l'analyse et qu'on en voit quelque chose de politique. Et du coup, cette espèce de perversion de ça, un truc qui est juste de la crucifixion organisée, ça me rend folle. Et en même temps, pour moi, c'est très lié à Hillary Clinton. C'est le même type de phénomène qui s'est passé. Du coup, il y a des articles, quand même, deux articles super intéressants qui ont été écrits sur le sujet. Un dans The Guardian, l'autre dans Esquire UK, ce qui sous-entend que c'est les Anglais qui ont compris le clip, alors que les Américains sont complètement stupides. Non, pas stupides, mais aveuglés. Mm-hmm. Je tiens à dire que deux personnes qui ont dismiss dans leur travail officiel cette chanson et Taylor Swift, je leur ai écrit directement sur Twitter, parce que dans les deux cas, c'était des gens que j'admirais énormément. Il y a Sam Sanders, qui est un journaliste de NPR, qui faisait partie de la team du NPR Politics Podcast l'année dernière, qui a un nouveau podcast qui s'appelle It's been a minute, où le but, c'est parce que les news vont trop vite, du coup, tu t'arrêtes pendant une heure sur un sujet par semaine. Mais du coup, tu fais une émission comme ça le mardi, et le vendredi, tu as un weekly wrap où tu parles de tous les trucs qui se sont passés dans la semaine. Il en parle toujours avec deux autres commentateurs politiques, culturels, voilà, de NPR ou associés. Et en gros, ils ont. Et j'ai commencé à écouter son podcast il y a quelques jours, enfin juste au moment où j'étais coincée à Düsseldorf. J'écoutais un truc génial, une émission spéciale autour de Charlottesville qui était passionnante, dont je mettrai le lien et tout. Et ensuite, j'écoute le Weekly Wrap et ils disent ah, Taylor Swift, oh là là, mais qu'est-ce qu'on en a marre. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle peut arrêter de nous faire chier avec le fait que John Mayer lui ait brisé le cœur. Non, mais c'est bon quoi. Et t'es là. Excuse-moi, mais l'intégralité de tous les auteurs de chansons raconte ce qui leur est arrivé. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit ?
C'est la source principale.
Et en fait, c'est un truc, Hélène, dont on parlait tout à l'heure, a donné un cours à l'université ici à Berlin sur la littérature féminine du 19e siècle française, parce qu'elle est française, et sur en fait, le fait que les romans d'apprentissage écrits par des femmes étaient qualifiés de romances et qu'elles étaient fortement critiquées dès l'apparition, généralement, parce qu'on disait « Ah, oh, tout ce qu'elle fait, c'est raconter ses histoires de cul, avec on sait qu'elle a couché avec machin et machin, c'est pas un vrai roman. Mm-hmm. » Alors que Musset, qui prenait des extraits directs de lettres de George Sand pour les mettre dans ses pièces, « On ne badine pas avec l'amour », le Perdican, la grande tirade de Perdican à la fin de l'acte 2, c'est tiré mot pour mot d'une pièce, d'une lettre que George Sand lui avait envoyée. Le truc sur le fait... quand je serai sur le bord de ma tombe, je me retournerai pour regarder en arrière et je dirai j'ai vécu souvent, je me suis trompée, non, j'ai aimé beaucoup, je me suis trompée quelques fois, mais j'ai vécu, c'est moi. Mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factif créé par mon orgueil et mon ennui. Enfin, qui est un truc, genre, mot d'ordre de mon existence depuis que je l'ai lu, quand j'avais 14 ans. Et donc, c'est cette espèce de double standard et le fait, c'est que les gens refusent de l'admettre à chaque fois, ils sont là, non, non, c'est mon opinion originale de penser que Taylor Swift, c'est de la merde. Et t'es ouais. Là, tu es complètement conditionné par un... Et je veux dire, c'est vrai, c'est une exacerbation ce qu'on lit sur les médias, mais en fait, quand tu parles aux gens dans la vie, tu retrouves exactement le même phénomène. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, je reprends mes études et je vais étudier là-dessus. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. S'il y a un prof qui cherche des élèves en études des médias, en anglicisme ou en ce que vous voulez, je suis à la recherche d'un directeur de... je sais pas, mémoire, thèse, on va voir. Donc voilà, ça c'était pour Taylor Swift. Oui, donc je voulais dire Sam Sanders, il l'a dit, je me suis perdue dans mon histoire, comme d'habitude. Donc du coup, je lui ai écrit sur Internet et sur Twitter, il m'a gentiment répondu. Je suis pas d'accord avec ce qu'il m'a répondu, mais n'empêche qu'il a pris le temps de le faire, ce qui n'était pas nécessaire pour lui, j'imagine. Et à côté, pareil, une femme qui est de temps en temps dans Pop Culture Happy Hour, qui s'appelle Margaret H. Wilson, qui est bibliothécaire, et qui a une newsletter que j'aime beaucoup, qui s'appelle Two Bossy Dames, avec une autre dame, justement, une autre femme, et qui fait régulièrement une newsletter avec plein de liens sur plein de choses, notamment de pop culture, mais pas seulement, a aussi dit du mal de Taylor Swift, surtout en citant l'article de Mark Harris, donc, qui appelait son clip une œuvre trumpienne. Et elle, je lui ai pareil répondu sur Twitter et elle a pris le temps de lire tous les liens que je lui ai envoyés, de me répondre. Pareil, on n'est pas d'accord à la fin, mais c'est agréable et admirable d'avoir des gens qui ne me connaissent pas et qui acceptent, surtout sur un sujet où clairement tu as 250 000 fans qui, pour le coup c'est vrai, qui vont dire « Ah, mais pourquoi t'es méchant avec Taylor ?» Et que j'imagine que quand t'es obligé d'un peu ignorer... Quand il y a trop de bruit, à un moment, tu peux pas répondre à tous les tweets.
Non, c'est clair.
Donc, ils ont pris le temps de me répondre avec plusieurs tweets chacun. Ils me remerciaient à chaque fois de leur avoir écrit. On me remerciait de leur écrire, de dire ce que je pensais, de prendre le temps. Voilà. Donc, ça, c'était hyper cool. Donc, voilà, on va clore ça pour l'instant. L'album sort le 10 novembre. Je vous confirme qu'on va en reparler. Pour l'instant, entre-temps, je suis très, très, très fan de la chanson. Surtout que j'ai réalisé que c'est effectivement le soundtrack de mon article pour Joss. Ce n'est pas tant... parce que ça caractérise Joss que ça me caractérise moi. Look what you made me do. Vous m'avez fait écrire pendant 2 semaines sur Facebook et Twitter et compagnie, alors que j'essaye quand même d'éviter de rentrer dans les controverses sur les réseaux sociaux. Et entre-temps, chaque fois que je revois le clip, je vois autre chose. Il y a vraiment un truc sur la multiplicité des personnalités, de ce qu'on pense d'elle, de ce qu'elle pense d'elle, de ce qu'elle dit d'elle, de ce que les autres disent d'elle. C'est vraiment passionnant et il y a vraiment plein de choses autour de ça. Je vous mettrai... quelques liens aussi vers l'interview de Todrick Hall, qui est son ami danseur noir qui est dans le clip et qui a été descendu en flèche aussi sur Twitter comme étant un traître parce qu'il était ami avec une privilégiée salope comme Taylor Swift. Mais comme vous avez compris, je peux en parler pendant 250 heures, donc je m'arrête là. On va passer d'une blonde pour en parler d'une autre et on va aller du côté du cinéma. On a quand même réussi à voir un film pendant 2 semaines, mais bon, on l'a vu 2 fois.
Exactement.
On a vu
Atomic Blonde.
Qu'on avait très, 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 très envie de voir. Il faut dire que le trailer passait systématiquement chaque fois qu'on allait au cinéma. Et c'est vrai que...
Mais avantageusement, enfin, Mais c'était le même trailer à chaque fois. Parce que des fois, il te passe 2-3 trailers et ça, tu as vu tout le film. Mais on l'a vu quand même beaucoup. Donc, quand on voyait le film, quand on l'a vu pour la première fois, on savait déjà ce qui allait se passer sur beaucoup de scènes, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que ça, je pense que ça, enfin, ça a joué un petit peu pour la première,
oui,
pour le premier visionnage, en fait. Parce que on est dans une attente. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me concerne. Je suis dans une attente. À chaque fois que je voyais un truc, il allait y avoir une baston, il va y avoir un truc. Et ça m'a un peu dérangée par rapport au premier visionnage.
Je suis assez d'accord. Donc, c'est un film avec Charlize Theron qui se passe en 1989, dans les jours avant et après la chute du mur de Berlin. Nous sentons très concernés, bien sûr, en tant que berlinoise.
Pas pourquoi.
Et fan d'histoire, dans mon cas aussi, en plus. Et surtout parce qu'il y avait plein de musique des années 80 qui était dans le trailer, qui n'était pas d'ailleurs. Il y avait Eurythmics et d'autres qui étaient dans le trailer qui n'étaient pas dans.
Il y avait Blue Monday.
Mais Blue Monday, c'est aussi. Ça, c'est dans le film.
Oui, c'est dans le film, oui, oui.
Non, alors
c'est...
que Eurythmics.
C'est
How does it feel? C'est ça, hein? Tin, 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 tin. C'est cette chanson-là ou c'est une autre? Blue Monday. Je crois que c'est ça.
Blue Monday, oui. Eurythmics, genre.
Non, parce qu'il y avait aussi. Everybody wants to rule the world, comment ça s'appelle? Et là, une des chansons les plus célèbres de Eurythmics, il y a des passages qui sont dans le trailer. Bon. Vous verrez le trailer, vous regarderez.
On regardera.
En tout cas, j'ai commencé à constituer ma propre BO de Atomic Blonde pour avoir toutes les chansons parce qu'elles ne sont pas toutes sur le truc officiel. Ouh, on va pouvoir partager ça. Je suis d'accord que moi aussi, les attentes ont perturbé mon premier visionnage. Ça ne m'a pas déplu, mais je n'étais pas complètement convaincue. Je n'étais pas sûre. J'avais du mal à m'attacher au personnage. J'avais du mal à m'intéresser à l'histoire. J'avais du mal à au-delà du fait, effectivement, le style. Alors, visuellement, par contre, un bonheur absolu.
Charlize Theron est absolument magnifique.
Et j'avoue que je ne pensais pas encore à ça, mais c'est vrai aussi, parce que je peux la regarder et faire n'importe quoi. Mais putain, enfin non, parce que dans Prometheus, j'avais envie de l'étrangler toutes les 30 secondes, surtout quand elle courait en ligne droite, poursuivie par un vaisseau spatial de ligne droite.
Pas de Prometheus.
Je vous conseille le Honest Trailer, par contre, qui est quand même un gros moment de poilade.
Poilade. Oui. Pardon, c'est des termes que j'entends plus à vivre à l'étranger, genre poilade. Ok.
Mais des fois, il y a des trucs qui remontent. Non, je pensais aux fringues, aux couleurs, au décor et à la lumière.
Ah ouais, super.
Non, mais l'esthétique est absolument géniale. Et ça, pour le coup, c'était la promesse du trailer. Et elle est vraiment accomplie dans le film. C'est plus au niveau de l'histoire et au niveau du personnage que j'avais des soucis. Mais bon, on est sorti quand même avec tout de suite l'intention de le voir.
Oui, oui, ça, c'est le premier truc. En plus, il y a une scène particulière. Enfin, il y a un cinéma dans le film, qui est le Kino International. Et en fait, qui existe toujours. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on aille, qu'on retourne le voir au Kino International. Parce que, genre, ça donne un petit truc. Et d'ailleurs, quand on l'a revu, les gens rigolaient en voyant le Kino International. Parce que nous, on savait, mais genre, on est là. Genre, oh, c'est là, on est là.
Et c'est là que tu te rends compte que l'intérieur. Parce que du coup, c'est pris toute une saison d'aide. Parce que la première fois que je l'ai vu, je dis à Thibaut qui l'a vu avec nous, je lui dis, ouais, c'est vraiment ça. Ça ressemble toujours à ça. Et d'ailleurs, l'intérieur, c'est le même. Et on arrive au Kino International et je fais bah non, en fait, c'est pas du tout. Il y avait une fresque dans le film. Je dis bah, c'est bizarre, je commence à prendre des photos de l'intérieur et tout. Et du coup, en voyant le film dans le cinéma, on réalise que c'est pas du tout le même intérieur. Alors il y a eu toute une discussion sur est-ce que le cinéma a été rénové et du coup, mais ça serait sous-entendu qu'ils avaient reconstitué l'ancienne apparence du Kino International à l'intérieur. Je le sentais pas trop et bingo, en fait, en épluchant internet, j'ai fini par trouver une interview du set designer qui disait on a tourné l'intérieur dans un cinéma à Budapest. Du coup, j'ai cherché, comment on disait, cinéma en hongrois et j'ai cherché sur Google Images pour essayer de trouver l'image du cinéma de Budapest, mais j'ai pas trouvé. Non. Mais oui, c'était un vrai plaisir de le regarder au Kino International et du coup, on l'a revu et là, en sachant exactement, en connaissant le film et donc du coup, on pourra essayer de l'apprécier différemment. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment de plus en plus, quand il y a un film qui a plein d'informations, j'ai vraiment besoin de temps, en fait, de le revoir.
De le revoir et de... Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré la deuxième fois, quoi. C'était finalement.
Bah, il y avait tout un truc sur les sagas, parce que quand j'étais sortie la première fois, j'avais dit c'est très froid. Et tu disais, ouais, en même temps, c'est adapté d'un truc qui s'appelle The Coldest Cities, donc c'est peut-être ça le but. Et il y a quelque chose vraiment. Et en fait, effectivement, une fois que tu comprends qui elle est, tu sais tous les détails de la fin de l'histoire. Quand tu regardes le début, tu le vois différemment, tu comprends d'autres choses différemment. Il y a tout un tas de choses. Enfin, puis il y a vraiment l'idée d'oser mettre un personnage féminin dans un truc spécifiquement qu'on voit généralement les hommes faire, c'est-à-dire C'est vrai que c'est rare les personnages féminins qui sont en force, qui sont pas du coup, qui ont pas tendance à tout le temps exprimer de l'émotion. Ça, c'est ce que j'adore chez Wonder Woman. Mm-hmm. Et en même temps, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas cette représentation de femmes qui, comme James Bond, a de temps en temps une émotion, mais pas tant que ça. Et là, c'est pareil, de temps en temps, elle en a, mais en gros, la plupart du temps, elle en montre pas.
Elle en montre pas, mais en fait, seul truc, c'est qu'il montre cette relation sans spoiler,
il y a une relation et on sent que ça c'est
sent que ça l'a quand même touché quoi,
que ça l'a fait par
plaisir, parce
qu'en
plus après t'as une répercussion par rapport après où elle en reparle,
ouais. Et tu sens que c'était un
vengeance en plus.
En fait, quand tu le sais, quand tu revois le film, tu vois tout de suite qu'il se passe quelque chose. Mm-mm. Et que tout de suite là, ça la touche différemment.
C'est super visuel comme film, c'est hallucinant.
Ouais, et un chose qui et passe par les regards.
Et puis t'as la super séquence. Enfin,
oui, et t'as une séquence, donc un long plan séquence qui est un faux plan, enfin qui est plusieurs longs plans séquences mis ensemble qui donnent l'impression que ce soit un énorme plan séquence. Donc il triche trois fois, une fois pour passer les deux fois pour passer à des images où clairement c'est une cascadeuse qui est à la place de Charlize Theron, parce qu'elle se prend, il a retourné, il la fracasse contre une table, et je pense que au niveau assurance il pouvait pas faire ça à Charlize Theron, ça foutait trop dans la merde. Mais et ensuite au moment où ils ressortent de l'intérieur à l'extérieur, où effectivement il triche en étant en noir sur le dos parce qu'il passe sous un Porsche.
Mais sinon, sans dévoiler le truc,
en gros, la cage d'escalier. À partir du moment où il y a une scène dans une manifestation, quand il se quitte la manifestation, faites attention, parce qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à beaucoup plus loin, vous allez voir, pendant très longtemps, la caméra reste. Enfin, il n'y a pas de changement d'angle, en fait.
Non, il n'y a pas de changement d'angle. Et c'est bien, en plus, parce qu'en plus, c'est très réaliste.
Et c'est une des scènes les plus où il y a le plus d'action, le plus de violence. C'est pas du tout genre, on a fait un plan séquence pour se balader à vélo.
Ouais, et on parlait du fait qu'elle était. On voyait son côté humain, enfin, et son côté qu'elle était pas, c'est pas une super-héros en fait, c'est vraiment une nana. On parlait de Buffy par exemple, qui elle a quand même des super pouvoirs, et elle non, elle en a pas, tu vois,
et
bien qu'elle
se bat
comme une femme, et elle se bat
qui n'a pas de super pouvoir.
Et justement Thibaut disait que quand il se lève et qu'il titube, tu vois qu'il se casse la gueule parce qu'ils ils sont dans un état lamentable, parce qu'ils sont vraiment en train de se prendre des coups quoi. Et même les méchants, quoi.
Oui.
C'est pas, il y a pas, je veux dire, c'est pas, surtout le mec et la nana sont, tu vois qu'il y a, enfin, il y a un équilibre. Tu vois, à un moment donné, en plus, je trouve qu'au début, il parle, enfin, tu vois, le mec qui est plus, elle arrive à battre plein de mecs, il y a pas de problème, mais il y en a un qui est plus fort que les autres, et elle s'en prend plus la gueule par rapport à lui, en fait, et c'est pour ça justement que ce combat est assez
spectaculaire. Tu parles du truc dans l'écran au film international ou derrière l'écran ou dans
Tu vois qu'il a le dessus.
C'est le seul moment où elle porte des vrais talons. Mm-hmm. Enfin, tu vois, elle porte des hauts talons dans les scènes de combat. Pratiquement tout le temps, elle n'est pas en talons. Elle ne met pas de talons. Et dans cette scène-là, elle est en talons. Et c'est très beau à regarder, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, là, elle a des talons. Parce que très souvent, on a des cuissards, des bottes, mais avec pratiquement pas de semelles.
Ouais.
Et ce que j'apprécie énormément, et en fait en gros c'est Charlize Theron qui s'est battue pour les talons sur celle-là. Elle a dit, le plan va être tellement beau,
ouais, mais c'est
laisse-moi porter ses talons, et il était là et elle était là, mais
c'est le truc que...
Et effectivement, dans cette partie de l'histoire, elle passe pas beaucoup de temps à se battre, donc elle doit pas tenir très longtemps sur ses talons à se battre. Mais
ça fait penser à Jurassic World avec Jessica Chastain qui est dedans.
C'est absolument Jessica Dallas, Chastain. C'est... Je passe mon temps à dire que c'est Jessica Chastain, mais ce n'est absolument pas, c'est Bryce Dallas Howard.
Qui porte aussi des...
Oui, et d'ailleurs ça a été critiqué comme un... Enfin d'ailleurs, Nicole considère que c'est un des films les plus misogynes et racistes de ces dernières années. Non, elle les retire pas, elle refuse de les retirer. Même ils en parlent.
Ils le notent, donc je vois pas où est le problème.
Non, mais en plus, j'ai des têtes, internet. Mais après, Nicole, que nous adorons.
Nous l'adorons, ouais. Oui, on l'adore.
Écrit un long article sur le fait que Jurassic World est un des trucs les plus racistes et misogynes de ces dernières décennies. Je suis pas complètement d'accord.
Ça va devenir mon nom. Non, pas bullshit, évidemment, non. C'est mon truc, ma coach. Genre,
hashtag bullshit. Bullshit. Après, il faut que tu lises l'article pour voir, parce qu'elle elle développe quand même le truc de façon très intéressante. Et voilà. Mais bon, voilà. Moi, il se trouve que je ne suis pas complètement d'accord avec celui-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec d'autres trucs qu'elle voit aussi, mais bon, c'est ce qui rend la conversation intéressante. Je vous mettrai le lien de son article pour que vous puissiez en juger par vous-même. En plus, c'est sur un site qu'elle a où elle écrit plein d'articles très intéressants, avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais qui sont toujours très bien écrits et qui prêtent à discussion. Alors, en gros, Atomic Blonde, c'était en fait hyper fun, mais ce n'était pas le fun que j'imaginais quand j'ai vu le trailer. Il y a quelque chose de beaucoup plus éthéré, beaucoup plus flottant dans l'ambiance de ce film, alors que ça avait l'air d'être un truc tang, tang, tac. Ben d'ailleurs, à cause, parce que c'est littéralement ce qu'il y a dans le trailer, le tang, tang. Mais c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus flottant. On est beaucoup plus dans l'idée des ombres et de la lumière et du fait que derrière l'histoire officielle, il y a une autre histoire qui est plus marécageuse. On est pas, effectivement, on n'est pas dans un truc de super-héros. Alors qu'effectivement, le trailer donnait l'impression de l'être un peu plus, je trouve.
Ouais, ouais. Mais donc, ouais,
un truc plus franc.
Je suis très agréablement surprise, en fait, par rapport à ça. Non, c'était vraiment...
Moi, bien. Je pense... C'est pas grave, parce que j'ai beaucoup pensé pour la première fois que j'ai vu à Man from U.N.C.L.E. Et c'est vraiment absolument c'est à l'opposé de Man from U.N.C.L.E.
Le côté Berlin, bien sûr, parce qu'en plus, t'as cette
et aussi cette l'esthétisation de l'espionnage.
De début où c'est le...
Où il passe
le mur, donc... et puis t'as,
enfin, les travaux du mur, parce que le mur n'est pas terminé.
Parce que... Donc, ouais. Mais il y a plein de scènes. Non, c'est super bien fait. Franchement, c'est... j'y pense encore. Donc, pour moi, quand je pense encore à un film... Et en ce moment, c'est... Enfin... Je pense pas à beaucoup de films en plus.
Ouais, attends, on va pas en voir. On n'a pas vu beaucoup.
On n'est pas, on n'a pas vu beaucoup. Non, mais bon, on a vu. Bon, on va pas rentrer sur les détails des films qu'on a vus.
Passons du coup au chapitre suivant.
Oui.
Les séries.
Oui, les séries qu'on a vues.
On n'a pas vu énormément de trucs non plus. On a vu surtout des trucs chacune de notre côté. Mais il y a un truc qu'on regarde en famille, parce qu'on a décidé il y a quelques semaines. Je pense qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent.
Pense pas non plus.
On a décidé, donc il y a quelques semaines, on a regardé le pilote et le deuxième épisode, et là on a repris la semaine dernière, une série, de montrer à Petit Bear une série dont je lui parle depuis longtemps, qui est une série que j'ai tellement aimée et que j'ai un peu oubliée.
J'adore cette série.
C'est Chuck.
Chuck, ouais. Chuck. Surtout qu'il a 19 ans et qu'il a pas du tout notre.
Notre culture.
Background de série, et en fait, on a tellement de choses. Alors, à chaque fois qu'on pense à un film qu'on va lui montrer, on commence, Yael commence à faire une liste. Parce que c'est genre, il y a ça. Oh, il y a ça. Et les séries, c'est pareil. On a plein de trucs. Et le truc Chuck, c'est.
Et Chuck, c'était vraiment un truc où je me dis, putain,
ça va lui plaire. Parce qu'en plus, il est dans ce délire-là. Enfin, les délires.
D'ailleurs, hier, on a décidé qu'on
des nerds. Oui, on a décidé que c'était lui, ouais.
C'est clair. C'était Chuck.
Surtout quand il commence à parler tout seul dans la voiture, il fait genre, ah oui, c'est Petit Bear. C'est toi.
Petit Bear. Mais non, mais je fais rien de bizarre, je vois pas de quoi vous parler. Et donc, oui, donc on a commencé Chuck, donc on lui a montré le pilote, ça lui a beaucoup plu. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il rigole vraiment à gorge déployée quand il regarde le truc, mais il rigole des fois sur des trucs que tu sais pas. Mais c'est comme dans Atomic Blonde où il s'est un peu fait chier, et de temps en temps il a rigolé, et je dis, mais il rigolait quand même. Et toi, tu m'as dit, oui, non, mais quand quelqu'un meurt de façon.
Ouais.
Un peu spectaculaire, il rigole. Ça le fait toujours rire. Moi, je suis là. C'est inquiétant quand même.
C'est l'histoire de. Ça, c'est pas de spoiler, mais par rapport, c'est l'oignon.
Oui, c'est ça.
Vous regardez le film.
Il y a un moment, il y a un oignon. Et elle prend quelque chose d'autre pour se défendre. Et Thibaut était là. Bah, j'étais surprise, je pensais qu'elle allait prendre l'oignon. Et je dis, faut l'éplucher. Et il dit, mais c'était épluché l'oignon.
Il était épluché, il aurait mis la bouche.
Il a fumé et tout. Et quand on a revu le film, effectivement, on a tout de suite repéré l'oignon épluché. Qui est donc à vous de trouver l'oignon épluché. Effectivement, ça le fait. En tout cas, oui, il a tendance à rigoler à des trucs un peu comme ça. Et donc, ça le fait beaucoup rire, Chuck. Et là, on en est à l'épisode 7. Donc on en a regardé, ouais. On est à peu près à la moitié de la saison 1. Et j'avoue que revoir cette série, ça me fait... Alors déjà, il y avait deux chansons de Spoon dans les premiers épisodes. Moi, j'étais trop contente. Mais Alex Patsavas, la musique supervisor de Chuck, était celle de Gossip Girl, de The O.C., de Grey's Anatomy, de Supernatural, de Mad Men, des films Twilight. Donc c'est une nana que je suis depuis des années qui est responsable de la moitié de ma musique. Mais c'est vrai que c'était quand même un vrai bonheur de retrouver ça. Les chansons, d'ailleurs, la musique reste toujours aussi bien. C'est que même les vieux trucs et les trucs des années, les petits, tu vois, les chansons qu'on pas, où c'est des pas des artistes qui ont fait succès, qui datent d'il y a donc, de ces 2007, Chuck, donc il y a 10 ans. Putain, c'était il y a 10 ans. Ça reste toujours bien, quoi. Ça a pas vieilli, du tout, je trouve. Au contraire, ça a pas vieilli, et surtout, Par contre, ce qui est génial, c'est que ça manque une série comme Chuck.
C'est pas fini en 2012.
Bah, c'était 5 ans, donc si, mais ça commence en 2007.
Oui.
C'est 5 saisons. Mais oui, c'est totalement possible, que, du coup, c'est, oui, c'est logique que ce soit fini en 2012.
Oui.
Je me rappelle que ça a commencé en 2007 parce que ça a commencé en même temps que Gossip Girl.
Mm-mm.
Ça a commencé au moment où j'ai commencé à bosser pour.
Oui, et puis là, ça fait 10 ans, effectivement.
Et non, il y a vraiment ce truc de, à part Timeless, et encore, c'est plus grave, juste cette série où tu regardes le truc, il y a une histoire, mais tu regardes le truc parce que ça va être fun.
Ouais.
Et en même temps, c'est pas une sitcom, et en même
temps. Non, puis tous les personnages sont. T'as une évolution. Enfin, c'est juste génial. C'est juste génial. Il y a une évolution de tous les personnages.
C'est ça, en regardant le début, tu réalises tout ce qu'ils font après, et tu dis putain, mais en fait, ça se tient trop bien, quoi.
Non, tout à fait. Tout à fait. Le seul truc que tu avais souligné, c'est que y en a une qui disparaît au bout d'un moment.
Oui, bah oui, Anna. Dans le truc, et c'est dommage parce que c'est la nana de Northard, mais à un moment, il y a un moment où le bail mort est complètement modifié, changé. Je crois qu'il le. Enfin, il y a tout un truc, je crois, à la fin de la saison 2 ou
ouais,
saison 3.
J'ai oublié.
Et du coup,
très bien
et du coup à ce moment-là, il y a tous les
le
personnages, il y a beaucoup de personnages qui disparaissent à ce moment-là parce qu'il y a un changement, quoi.
Ah ouais.
Mais ouais, non, c'est un vrai bonheur. Si vous avez jamais vu Chuck, faites-vous plaisir. C'est une vraie poilade.
Ouais, une vraie poilade.
Et puis en même temps, il y a de l'action, il y a de la baston, il y a de la super musique, il y a des super acteurs. C'est tout, mais c'est tout le temps drôle aussi.
T'as Zachary, attends.
Ouais, et puis Zachary, il va. Mais j'adore qu'au début, c'est vraiment à faire croire qu'il n'est pas aussi beau qu'il est. Puis de temps en temps, il le fringue différemment et t'es là. Non, non, mais en fait, il est trop beau.
Lui déconverse.
Ouais. Et sinon, on a regardé d'autres trucs séparément. Donc, Marine, toi, t'as regardé
The Bold Type.
Que j'ai toujours vu que le pilote. Mais donc, Caroline m'a dit aussi qu'il fallait regarder la suite.
Il reste un épisode. Il n'y a que 9 épisodes qui sont passés. Il y a encore le 10e. Et franchement, au départ, quand j'ai commencé à regarder, je me disais, tiens, parce que Yael m'en avait parlé en me disant, tiens, il faut regarder ça parce que tout le monde en parle. Et quand j'ai commencé à regarder, ça m'a fait... Je me suis dit, OK, il n'y a rien de nouveau. Enfin, il y a déjà eu Sex and the City, il y a déjà eu plein de séries qui parlent de nanas qui bossent dans la mode, qui bossent... Mais là, c'est plus l'édition, en fait. Mais il y a aussi Younger, qui est différent, enfin, qui ne parle pas du même sujet, mais qui est quand même des séries de nanas, quoi. Ce qui tourne autour des nanas, et t'as juste des mecs à côté qui tournent, quoi. Et là, c'est vraiment le... Sinon, c'est vachement bien, ça traite de plein de sujets actuels. En plus, c'est donc un. C'est édition, pardon, un magazine. C'est un magazine qui s'appelle Scarlett, c'est ça, oui, Scarlett. Et c'est beaucoup plus moderne parce que ça parle des médias. Il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est médias, donc Instagram, Twitter, et des conneries qui peuvent passer justement avec les trolls et comment tu peux. Démonter quelqu'un par quelque chose, juste une phrase stupide, et c'est vachement bien fait. T'as tout un épisode sur ça. T'as un épisode sur sur le racisme, ça commence comme ça en fait aussi, par rapport à une nana qui vient
de l'Est, du Moyen-Orient.
Middle East,
c'est pour ça que j'ai dit
Middle East, ouais, de l'Est, du Moyen-Est.
Moyen-Orient, en français. Ouais. Dans le
Moyen-Orient, et t'as. Bon, après, t'as le fait qu'une nana découvre finalement qu'elle est attirée par les nanas. T'as ensuite. Il y a des sujets, c'est hallucinant, ça parle des sujets actuels, t'as politique, par rapport à la mode, par rapport à la politique. C'est que du féminisme en plus.
Chez Caroline m'a dit The Bold Type est au féminisme ce que The West Wing est à la démocratie. Donc elle a dit attention, ça n'a rien à voir avec la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est joué, la façon dont c'est mis en scène, c'est pas ça la question, il n'y a pas les mêmes types de dialogue du tout et tout ça, c'est pas ça la question. Mais elle veut dire dans la tentative de dire, et d'ailleurs du coup je lui dis, tu veux pas faire un podcast avec moi sur The Bold Type? Une fois que j'ai fini de regarder, elle fait ok. Donc Caroline Venac, grande star de la critique série, yay. Je t'ai forcé à faire le podcast maintenant. De toute façon, le problème, c'est jamais de convaincre les gens de faire le podcast, c'est de monter le podcast et de le mettre en ligne. C'est un autre problème. Et elle disait ça en disant comme dans The West Wing, il n'y a pas d'antagoniste incarné, c'est pas une personne qui est le méchant. C'est plus une tâche, une mission commune, qui est la mission d'essayer de faire fonctionner la démocratie, dans le cas de The West Wing. Et là, c'est la mission, c'est le féminisme.
Non, tout à fait.
C'est comment au quotidien tu te bats, comment tu avances, comment tu fais la part des choses, comment
en tant que
tu...
femme.
En tant que femme. Et avec l'idée, dès le départ, dans le pilote, on a l'idée que la patronne, ça va être une méchante, et en fait, elle n'est pas méchante.
Non, non, non. Et puis elle a une vie familiale. C'est génial. Oui, tout à fait.
C'est Jen de The Office, et je trouve que dans les trucs que je montre à Petit Bert, on regarde The Office, on en est au début de la saison 4. Et du coup, il a appris à connaître. Il y a encore Jen. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la revois là-dedans, je pense, mon Dieu, c'est là que je l'ai connue. Elle est vraiment géniale, cette actrice.
Donc, regardez The Bold Type.
Moi, j'ai regardé les 5 premiers épisodes de la dernière, je crois, malheureusement, saison de Playing House, qui est une petite série de USA Network que tu n'as pas encore regardée.
Non, et j'ai les saisons, d'ailleurs.
Qui est une série, c'est créé par deux meilleurs amis qui jouent tout le temps deux meilleurs amis. Donc, c'est vraiment pour nous. D'ailleurs, la série d'avant s'appelait Best Friends, je crois. Ou BFF, je sais plus. Et alors, nos amis, c'est... Je cherche leur nom. Il y en a une qui s'appelle Lennon Parham et l'autre s'appelle Jessica Sinclair. Elles ont fait aussi plein de guest stars dans plein d'autres séries et tout. Et l'histoire de Playing House, c'est elles étaient meilleures amies quand elles étaient jeunes. L'une des deux, quand elle avait 22 ans, a... Plutôt que d'épouser son high school sweetheart, c'était 19 ans d'ailleurs, qui est joué par Keegan Michael, j'oublie tout le temps son nom, Keegan Michael Key, Michael, tu vois ce que je veux dire ? Keegan Michael Key, c'est ça ?
Ah non, j'ai aucune idée.
Le mec de Jordan and... Non, mais Keegan Michael Key, c'est le nom de l'acteur, c'est le black qui, tu sais, qui est dans Pitch Perfect. Qui est dans Jordan and Peele, c'est... Non, Jordan Peele. Key and Peele.
Oui, je vois, mais je...
Donc ce mec-là, donc elle a décidé de le planter et de partir faire sa carrière, il se trouve en Asie. Et là, elle revient en vacances et sa meilleure amie est enceinte jusqu'aux yeux, découvre que son mari la trompe et se retrouve toute seule avec un bébé sur le point de naître. Et donc, sa copine décide de tout lâcher, sa vie, et de venir s'installer avec elle.
Mm-mm.
Et vivre avec elle. Donc, Playing House. Tu vois pourquoi ça...
Oui, je comprends pourquoi tu veux que je le regarde. Ça va, papa?
C'est une série sur
deux visées.
C'est très pas vraiment sur nous, mais un peu quand même.
Non, mais bon.
Et du coup, voilà. Et là, la troisième saison, et j'étais en train de regarder l'épisode en disant « Ah, c'est drôle !» Et à la fin de l'épisode, il se passe un truc. Et d'un coup, je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'avais lu des tweets comme quoi il y avait un choix de storytelling assez fort dans la saison 3. » Et effectivement, c'est le cas. Et c'est super bien. Et c'est super drôle, c'est très particulier comme humour, faut en voir plusieurs pour rentrer dans le truc, mais il y a plein de... C'est très 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 touchant, et je crois qu'il y a 8 épisodes par saison de toute façon, donc en gros, en tout, ça fait 24 épisodes de 20 minutes, donc voilà. Et voilà, j'étais heureusement... je l'avais... Enfin, ça a été diffusé il y a 3 mois, je l'avais depuis un bout de temps, j'avais juste pas pris le temps de commencer à regarder. Et ouais, donc Playing House, c'est vraiment un petit bijou à découvrir. Toi, t'as dans le genre gros bijou que tout le monde a découvert.
J'ai fini Game of Thrones. Je suis contente d'avoir fini. c'est très sympa. Hein. Enfin, j'ai passé un bon moment. Sans spoiler, mais un léger spoiler, Kit Harington a des très belles fesses.
Nice.
Mais il a toujours cette tranche de constipé. Tout le temps, même quand il sourit. C'est juste, j'arrive pas. Bien, mais je vais pas en parler parce que ça sert à rien. De toute façon, vous serez spoilés sur internet. Voilà, j'ai fini.
En tout cas, satisfaisant.
Satisfaisant, oui, il y a des réponses, enfin. Il y a les réponses que vous attendez, les trucs que on savait déjà depuis un moment, mais en fait, on a enfin les trucs où ils le disent. C'est genre, thank you. Voilà, donc bien.
J'ai lu un truc passé sur internet qui dit le ah moi j'ai jamais regardé Game of Thrones et j'ai pas l'intention de le faire, c'était le nouveau ah mais moi je suis végane.
Tu lui réponds bah écoute tant mieux pour toi, on en a absolument rien à faire.
C'est exactement ça, c'est genre, et du coup c'est un article satirique qui disait Bill employé de bureau a passé la journée à aller voir tous les gens qui voulaient bien l'entendre et dire ah mais moi je regarde pas Game of Thrones et tout parce qu'apparemment il pense qu'on sent que ça nous fait quelque chose. C'est vrai que j'ai vu ça de façon redondante sur internet. Ah, mais moi j'ai jamais vu. Hein. Ah, mais moi je veux pas regarder. Ou alors, peut-être que je devrais regarder. Et t'es là, mais on s'en fout, les gars, on s'en fout. Bon, passons. Moi j'ai regardé aussi un autre truc pour la première fois qui date depuis juin, qui date de juin, qui est une émission satirique sur la politique de Comédie Centrale, une nouvelle
qui est originale,
qui est hebdomadaire et qui, ironiquement cette fois-ci, c'est un Australien. Et il commence par dire, donc Trevor Noah vient d'Afrique du Sud, John Oliver vient d'Angleterre, Samantha Bee est canadienne, moi je suis australien. En gros, tous les gens qui parlent de politique américaine sont étrangers. Et du coup, ouais, il et donc c'est un Australien qui, certaines personnes, c'est Alix, il y a très longtemps, qui m'a montré un sketch où il parlait du gun control aux États-Unis. Il vit aux États-Unis depuis très longtemps et il a des opinions assez arrêtées sur la politique américaine. Il est notamment contre le port de l'arme, enfin d'armes, et plein d'autres choses. Il est très intéressant et très drôle, un peu dark. Il avait une émission qui s'appelait Legit, qui était beaucoup trop dark, humour noir pour moi, que j'ai pas pu regarder, même si ça aussi Alix aimait bien. Et là, du coup, il a cette émission et j'ai commencé à regarder, j'ai bouffé les 10 épisodes. C'était trop bien. Je les ai regardés en 2 jours avec hashtag favorite sur le moment où il dit qu'il doit aller à Politicon pour parler aux blogueurs et analystes politiques et il se trompe et il va à Comic-Con à la place et donc il interview des gens en costume sur ce qu'ils pensent de la politique actuelle et qu'ils ont des vraies réponses, mais y compris le Stormtrooper qui dit c'est l'Empire qui doit reprendre le contrôle parce qu'il y a un fou furieux au pouvoir et l'Empire doit... Et ça me fait beaucoup rire. Après il dit mais vous pensez pas que Donald Trump c'est comme l'Empereur? Il fait non, non. L'empereur était beaucoup plus intelligent. Et donc voilà, ce genre de conversation avec une nana habillée en Deadpool, il dit, vous pensez quoi de je sais plus quoi? Et elle dit, oh, vous savez, moi, je tire surtout sur les gens.
Ça m'intéresserait qu'il me l'écoute parce que moi, en plus, j'aime beaucoup les trucs australiens.
Voilà, et en plus, il a vraiment... Enfin, tu vois, il a le plaisir d'écouter l'accent australien. C'est quand même un grand... C'est toujours un grand bonheur.
Oui, c'est clair.
Donc Jim Jeffries, The Jim Jeffries Show, Jeffries, J-E-F-E-R-I-E-S, comme tu ne penses pas que ça va s'écrire, mais il y a un E.
Et c'est parfait parce que moi j'en ai regardé déjà une autre série qui est Offspring, qui est une série australienne, qui est un de mes gros coups de cœur de ces dernières années que j'adore, où ils avaient fait 5 saisons, ça avait été arrêté, tout le monde était triste et il y a eu des gros... des grandes campagnes pour que ça recommence, enfin pas comme à l'américaine, mais tout le monde en parlait, mais parce que bon, surtout on en entend beaucoup moins parler parce que c'est en Australie, donc tu vois pas vraiment ce qui se passe. Et finalement ils ont décidé de 2 ans plus tard de reprendre et de faire une 6e saison. Et finalement il y a une 7e saison et je crois qu'ils vont continuer quoi. Donc j'espère parce qu'il me reste 2 épisodes et j'ai encore envie de regarder. C'est une série que je veux faire découvrir à Yael. Enfin Yael a déjà regardé mais il s'est passé un truc dans la première saison, ça l'a bloqué donc elle a eu ça
lui fait. Tu me l'avais très très bien vendu quand tu avais commencé à la regarder, tu m'avais raconté le moment où la nana elle a un crush sur un mec à l'hôpital où elle travaille et le mec se retrouve invité à un truc de famille d'elle et elle se plaint au membre de la famille qui a invité le mec en disant mais comment tu peux avoir invité ce mec, c'est trop l'humiliation, je me suis jetée sur lui et il a rien voulu de moi et maintenant je me sens trop humiliée de devoir lui faire face et tout. Et là elle se retrouve, bien sûr le mec est derrière elle, donc le membre de la famille se barre et là le mec la regarde et fait tu t'es jetée sur moi quand? Et je trouve ça assez génial sur l'idée de c'était I threw myself at him. Le truc de les nanas où des fois là on a la perception d'avoir fait des trucs énormes et que le mec en face il dit ah ben alors j'avais pas du tout compris en fait,
parce qu'en plus elle a une imagination débordante et en fait t'as toujours tu vois ce qui se passe et ce qu'elle imagine qui se passe dans sa tête et elle se parle toute seule à elle-même et genre la la la, genre elle s'imagine des trucs, des fantaisies à chaque fois et elle se réveille et tout genre ok. Et en fait ça raconte l'histoire d'une trentenaire en fait, des histoires amoureuses d'une trentenaire, c'est le truc de base, qui est obstétricienne, qui est quand même un travail important. Elle est obstétricienne, hein,
obstétricienne.
Oui. Dans un hôpital,
elle n'est pas, elle fait pas, c'est pas la femme de ménage de l'hôpital.
Non, c'est l'obstétricienne et une des obstétriciennes dans un au St. Francis Hospital, où ils sont tous plus tard les uns que les autres, mais c'est vraiment une grande famille, ils s'adorent, ils se respectent. Elle a une famille un peu déjantée, très particulière, qui est super, et qui déborde toujours un peu sur sa vie, professionnelle. Donc en gros, il y a toujours quelqu'un qui l'appelle alors qu'elle doit faire accoucher quelqu'un, etc. Et ça montre aussi tout ce que peut, plus dans les dernières saisons, enfin... avant aussi quand même, mais tout ce que des femmes peuvent traverser pendant leur grossesse, ou les problèmes qu'il peut y avoir, et puis l'après aussi.
Ça parle du postpartum aussi?
Ouais. Ça parle. Non, mais c'est absolument génial. Et finalement, c'est une série très féministe, quoi. Surtout parce que c'est vraiment autour des femmes. T'as plein d'acteurs masculins, enfin des protagonistes masculins aussi, quoi. Parce qu'elle a un frère, elle a son père, puis les hommes de sa vie ou quoi que ce soit, qui ont une place importante et qui sont des main characters, enfin des caractères principaux aussi, quoi. Mais elle a une relation très particulière avec sa sœur, qui est très fusionnelle et qui est très importante. Tu vois bien que c'est genre la personne la plus importante de sa vie, c'est sa sœur. Et c'est super parce que tous les personnages sont vraiment traités, ils ont tous une vie, ils ont une évolution hallucinante parce que son frère, au départ, c'est quand même un peu le loser qui...
Le slacker, oui.
Il faut rien de sa vie,
cet épisode, hein, alors...
Il faut rien de sa vie et il y a une évolution géniale et puis...
Ok, qu'est-ce que t'entends?
C'est absolument génial et j'ai envie de recommencer de regarder la série avec elle, comme on a recommencé de regarder Buffy, qui est quand même la série préférée d'Yael, au cas où vous n'aviez pas compris. moi, une de mes séries préférées, c'est Offspring, et j'ai envie de le revoir avec elle. Donc, on va vraiment prévoir ça, et comme ça, on vous en parlera.
Absolument.
Durant.
Parce que moi, en gros, ça m'a énormément plu. J'ai vu 7 épisodes genre d'un coup, et à l'épisode 7, il se passe un truc traumatique, et moi, j'étais là, je veux pas regarder la suite, je veux pas savoir, j'ai trop peur. Et d'ailleurs, c'est réalisé effectivement, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement.
Il y a plein de séries que j'arrête. Quand on avait Family Office, moi, je m'arrêtais parce que j'avais tellement peur que Steve Carell, genre,
fasse un
truc complètement con, et je me disais, mais j'ai pas envie de regarder. Et finalement, la série est tellement géniale.
Il y a un épisode que j'ai pas regardé
en entier. Tu peux pas.
Il y a l'épisode d'ailleurs, on va y arriver avec Thibaut. Tu vas enfin voir la fin de cet épisode.
On vous en parlera quand elle regardera ça.
Voilà,
avec Thibaut.
C'est ça. Donc ça, c'est les trucs qu'on a regardé. Moi, non, sinon, je regarde un autre truc. Je regarde maintenant sur Netflix un truc qui s'appelle Mord Mid-House-ish, qui veut dire meurtre avec vue. Où c'est une flic de Cologne qui veut devenir commissaire et se fait du coup nommer commissaire dans un bled paumé au milieu de nulle part. J'ai toujours pas compris exactement, c'est dans le Eifel, mais je sais pas exactement où c'est. Et donc je regarde ça pour m'endormir et du coup ça me fait travailler mon allemand. Ça ressemble un peu à Midsommar Murders qui s'appelle...
Inspecteur Barnaby.
Inspecteur Barnaby en français. Et d'ailleurs, c'est bien, ça marche parce que maintenant c'est son neveu qui a repris le truc et qui s'appelle aussi Barnaby. Et du coup ça a marché. C'est son neveu,
cousin, je crois. C'est un cousin.
Je crois que c'est un neveu ou c'est un petit cousin. Enfin en tout cas, on s'en fout. La question c'est que du coup ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est un peu moins bien, mais voilà. Mais c'est rigolo de regarder un truc allemand et de voir ce qu'eux, ils considèrent comme... C'est censé être une série policière humoristique. Sinon, je voulais quand même vous dire quelques mots de l'Italie, avant de vous laisser. Alors, je veux dire que c'est bien d'endoctriner les gens au plus jeune âge. Donc, la mariée, Gemma, qui est une Italienne qui a vécu chez moi, enfin dans ma famille, en tant que étudiante d'échange quand elle avait 15 ans. Elle est venue 3 mois à Paris. Et c'était le moment où je venais de découvrir Buffy. Et du coup, je lui ai parlé de Buffy toute la journée. J'ai aussi fait... Apparemment, le truc qui l'a aussi beaucoup marqué, c'est La Vie à 5. Parce qu'on regardait tous les samedis La Vie à 5 ou tous les dimanches. Du coup, quand elle est rentrée en Italie, elle a gardé son amour des séries. Et du coup, à son mariage, les tables du mariage avaient toutes des noms de séries. Et bien sûr, elle m'avait mis, moi et ma maman, à la table Buffy. Et donc voilà, endoctriner les gens à 15 ans, c'est bien. Encore plus tôt, c'est encore mieux. On a un peu échangé parce qu'on se voit très très rarement sur tous les trucs qu'on lui a fait faire pendant qu'elle était à Paris, y compris le fait qu'elle a eu sa première soirée d'Halloween avec nous.
Ah oui, chez moi.
Voilà, chez toi, où on avait organisé. Là, je te dis, non mais en fait, Gemma, c'était notre première soirée d'Halloween aussi. Et c'est la première fois que j'ai fêté Halloween. Non mais nous aussi, en fait, c'est juste qu'on regardait tellement de filles. Et elle dit, je me rappelle, on a regardé Scream. J'avais complètement oublié qu'on avait regardé Scream. J'ai dit, okay, how original. Et ensuite, on a regardé From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer, qui était très drôle. Bon, voilà, on a parlé de plein de trucs. C'était très fun de réaliser toutes les choses de pop culture américaine qu'on avait en commun parce qu'elles étaient connues en Italie. Son mari est fanatique de Scrubs, par exemple. C'est sa série préférée. Bon, sinon, après, j'ai bouffé, bien sûr. Elle m'a emmenée dans une gelateria, une glacerie, un glacier, qui s'appelle Le Conserve. C'est à Forlì, donc c'est à côté de Bologne. Si jamais vous passez dans le quartier, allez-y. Il y a une putain de glace à la pistache bio. Donc qui n'est pas verte, parce que c'est pas vert la glace à la pistache, c'est marron et c'est le truc le plus délicieux de la terre. Et ils ont un autre truc qui s'appelle crème de ricotta, crème de ricotta, c'est de la ricotta, je sais pas comment ça se dit, mais c'est génial.
J'ai une très bonne... T'as jamais goûté la glace à la pistache bio de Frau Frost?
Si.
Ok, parce que...
Oui, non, mais c'est possible. C'est vrai que là,
c'est...
Mais d'ailleurs, il faut qu'on retourne à faire la Frost parce que je suis pas allée depuis, on n'y est pas allé depuis 3 ans. Quoi. Et sinon, j'ai mangé des pizzas et j'ai réalisé que je suis incapable de commander une calzone sans expliquer aux gens pourquoi ils doivent regarder Parks and Recreation. Tout est lié à la pop culture, quoi qu'il arrive. Et j'ai aussi fait semblant de parler italien pendant tout le week-end, ce qui était très bien. J'étais très fière de moi et de mon accent, et j'ai réalisé qu'à partir du moment où je me suis éloignée de l'Italie, j'ai perdu toute capacité à dire les choses correctement en italien. Donc voilà, je m'en excuse. Mais surtout, vu que j'étais en pleine crise Taylor Swift, j'ai réussi à convaincre ma mère de devenir fan de Taylor Swift sans entendre sa musique. Tu vois, même les pompiers, ils sont d'accord pour dire que c'est un grand événement. Et elle a dit quelque chose de très très fort, et que je pense c'est une bonne façon de conclure toute cette thématique sur la réalité subjective, et notamment comment on parle des femmes et on traite les femmes. Je lui ai montré le clip de Shake It Off, au bout du... parce qu'elle m'a dit au début, donc quand j'en ai parlé, elle me dit « Bah moi, j'ai jamais écouté sa musique, mais je suis déjà fan !» À cause de tout le bien que je disais de Taylor Swift. Je pense notamment à... Il y a toute l'histoire du procès... Je crois qu'on en a parlé dans le podcast précédent qui vient de se terminer. Je mettrai des liens sur le site. En tout cas, elle a regardé... Je lui montre le clip de Shake It Off. D'ailleurs, elle m'a demandé que je revoie la chanson. Et elle me regarde, elle le regarde et elle me fait « Mais c'est normal qu'il l'aime pas !» Je dis « Pourquoi elle fait ?» Elle s'amuse.
Ouais.
Elle le montre et elle s'amuse. Elle sourit tout le temps. Et j'ai trouvé. Voilà, donc ma mère, qui est née en 1954, donc n'a pas exactement la même expérience du féminisme que moi, qui elle voudrait que les féministes parlent plus souvent du fait que c'est difficile quand t'es féministe d'être féministe tout le temps et que des fois il faut aussi être ok avec le fait de ne pas te battre sur tout, parce que sinon tu as plus de vie, notamment dans ton couple, quand t'es avec un mec d'un certain âge, apparemment, mais pas seulement. Mais j'ai bien aimé que elle, c'est ça qui l'a frappée, c'est ça qu'elle a vu en premier. Bon voilà, on va conclure parce que ça fait 300 heures qu'on parle.
Et que je dois partir.
Et que tu dois travailler. Et que moi j'ai un date avec un. Qui n'est pas du tout un date romantique, un date intellectuel avec un fan de Whedon qui m'a découvert sur Facebook et voilà. Qui
on en parlera la prochaine fois.
Alors merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci maintenant de commenter, de partager, d'encenser ou pas ce podcast. Sur le site, bien entendu, www.icannotstidl.com. Chaque fois que je l'appelle, je ne sais pas épeler en fait. Donc, I Can't Sit Still, où il y aura tout un tas de liens, de vidéos, de trucs. Je vais essayer de mettre, de pas trop perdre de temps pour retarder la publication, mais quand même de vous mettre tous les détails possibles. Il y a aussi ma page Facebook, le notebook de Yaelka, que je vous invite à suivre, sur lequel je mets tout un tas de tout ce que je fais, mais aussi mes pensées multiples et variées au quotidien. Sur le Twitter du site, qui est le même nom que le site, sans L à la fin, enfin avec un seul L parce que voilà, donc c'est ICA2NOTSITSTIL. Mais nous sommes aussi individuellement sur Instagram, Marine.
Marskaya. Ah non, Instagram. À chaque fois je fais le truc, c'est écureuil berlinoise.
Moi c'est YALKA, donc deux A à la fin. Et sur Twitter,
Marskaya.
MORSKAYA, parce que c'est pas évident que c'est un O. Et moi YALKA, YAELKA. Voilà. On vous retrouve le 18 septembre pour une semaine berlinoise en vacances. Hashtag teasing.
Oui!
Prenez soin de vous et bonne pop d'ici là.
Ça fait un prout.
Did the table just fart?
Non, c'est le truc, je sais pas, ça fait. Ah, c'est peut-être moi. moi, mon téléphone.
J'étais là, la
table. Il se met en vivant dans la tente, tout ça.
Pété.
Ça fait.
Et j'étais très étrange.
Tu viens poser ton téléphone et ça fait.
Bon, ok. Goopers, merci. We
feel the night is up. Mais les corbeaux, c'est. Il y a plein de corbeaux au Japon, quoi. Ils sont énormes, on dirait des gros chats. Et comme tous les câbles électriques sont à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas le mettre dans le sol à cause des tremblements de terre, t'as des câbles électriques qui sont assez bas et t'as toujours des gros corbeaux dessus, t'as des câbles électriques qui tombent, tu sais, et t'as toujours genre, t'as un vélo et tu genre, c'est quoi ce chat? Ah non, c'est un chat qui est posé sur le truc tout noir. Non, c'est un corbeau. Et puis c'est vraiment un boucan. Ils font peur, j'ai failli avoir 3 accidents déjà en vélo à cause des corbeaux qui te passent au-dessus de la tête. Super dangereux.
Ça, je vais le garder pour le coup.
Rien à voir avec ce qu'on va parler aujourd'hui.
Non, mais c'est rigolo, écoute.